Oh, voyez-vous, ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as dit une petite de vos gorgons?
Ça veut dire qu'on est piégés, chacun pour sa porte.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis. T'as fait un truc dégoûtant?
Moi, je ne suis pas si réjoui que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour!
Hello!
Bonsoir!
On a survécu!
À quoi?
Au mois de la maladie!
Ah, moi, ça allait.
Ça allait.
C'était déjà la
malade,
fin
moi,
la dernière fois.
Malade.
Oui, oui.
C'était le final.
Le final.
C'était la rémission.
Ben, on est fiers de vous annoncer que nous sommes plus en forme que jamais pour vous parler de toutes les séries et de tous les films qu'on a vus ce mois-ci.
Très peu.
Beaucoup, avec plein de cœurs.
Très peu aussi.
Il y a plein de cœurs partout. Oh bah, il n'y a que moi qui vais faire le podcast cette semaine.
C'est le podcast de Mathilde.
Damien et moi allons faire un contre-podcast.
On en a parlé aujourd'hui, oui. C'est le Star Miel podcast maintenant.
Ah oui, et ben moi je soumets à un autre nom de podcast que Mathilde a proposé.
Non, pas du tout.
Ça s'appellerait Emilien et son orchestre.
Ah, c'est pas mal. J'aime bien. Mais quel est le rapport avec...
Parce qu'elle a dit que j'étais l'animateur.
Oui.
J'ai dit que tu étais le chef d'orchestre.
Ça veut dire qu'on fait de la musique.
Et ben ouais, j'ai trouvé Emilien et son orchestre. J'aimais bien. C'est un plagiat d'une ancienne émission de radio, mais bon.
Ah ouais ?
Camille Combal et son orchestre.
C'est un peu, ouais.
Pour moi, c'est un nageur, Camille Combal, donc...
Mais non, mais c'est Camille la cour, le nageur.
Ah oui.
Bonsoir, comment allez-vous?
On est, comme vous l'entendez, super content de se retrouver, comme d'habitude, autour de la table pour enregistrer ce podcast. C'est mieux que le mois dernier où Damien était exilé. Après, peut-être que tu préfères être chez toi.
Non, c'est vraiment pas très pratique.
Et puis, on mange pas de pizza quand il est chez lui.
Alors, tu sais pas ce que je mangeais.
Le dédain, tu sais pas ce que j'ai mangé.
Je me suis fait commander.
Au programme ce mois-ci, Les 7 vies de Léa sur Netflix, Bubble sur Netflix, un impressionnant marathon Scam France sur France TV / et la nouvelle série Marvel Moon Knight sur Disney+. Mais avant de commencer, on va faire un tout petit peu d'actu. Il y a une réclamation dans le conducteur.
Parce que moi, je comprends rien ce qu'on met dans l'épito, donc je mets plus rien. Donc globalement, au niveau des actus, tout Visitors est sorti. Et c'est très très bien parce qu'il faut aller le regarder parce que c'est vraiment très bien.
C'est vraiment un épito.
Ça n'a aucun sens, un épito.
C'est une actu. C'est
mais
une
non,
actu, il y a tout
non.
Qui est sorti. Bon, laisse-moi finir.
Mais tu l'as dit la semaine, le mois dernier.
Oui, mais
ça
le mois
sortir.
Dernier, j'ai dit que ça allait sortir. Et là, je dis que tout est sorti et qu'il faut le regarder. C'est très différent.
On a regardé le premier épisode, wesh.
Moi, j'ai vu les 5 premiers, je crois. Et Le Flambeau a sorti ses 3 premiers épisodes aujourd'hui, le 25 mai.
Comme on l'a dit le mois dernier, quoi.
On n'a pas dit qu'il sortait 3 épisodes, on a dit que ça sortait fin du mois.
C'est vrai.
Et donc, voilà, c'est sur Canal+.
On passe maintenant au Hypito. Je vais commencer par un dépito.
Ah bah voilà.
C'est un coup de gueule. C'est mon coup de gueule du mois. C'est l'annulation de la série Drôle qu'on avait adorée dans le récapito de mars 2022.
C'était pas si loin que ça.
C'était il y a pas si longtemps. Mm-hmm. Et malheureusement, Younes Boussif, l'interprète de Nézir, a annoncé sur ses réseaux sociaux l'annulation de la série après seulement une seule saison. Netflix aurait prétexté une audience trop faible malgré le succès critique unanime. Et je note que pendant ce temps, Qui a tué Sarah a 3 saisons.
Ouais, mais Qui a tué Sarah est dans les top 10 des séries les plus vues mondialement.
Posons-nous les bonnes questions.
Lis le synopsis de la saison 3, ça
oui,
n'a
mais
aucun sens.
Ils s'en moquent. Enfin, je sais, hein, je ne suis pas d'accord
ah
du
non,
tout.
Ah non, c'est la
bande-annonce
d'ailleurs. Qui a aucun sens.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, hein, mais c'est dans les top 10 des séries les plus vues. donc ouais. Au monde, enfin dans tout le monde. Donc,
mais ouais. Bah après, c'est toujours facile hein, quand tu publies pas tes chiffres de juste faire ce que tu
veux. Ils commencent à les publier si tu veux. Il y a Fred de Netflixer qui fait une newsletter régulièrement avec et en fait, il explique tous les chiffres qu'il trouve sur Netflix et c'est plutôt d'accord. Bien fait.
Très bien.
Mais okay. je comprends que c'est dégueu. Non, par contre, je comprends que tu sois dégoûté hein, parce que cette série était vraiment trop bien.
Oui.
Il y avait du potentiel de ouf.
Heureusement, on n'est pas trop dévasté parce que bah, y avait une fin, à peu près.
Ouais, ça aurait
pu. Une fin ouverte, mais une fin.
Ouais.
Donc ça marche, à peu près. Mais c'est triste. Mathilde, toi, tu as un IPITO.
Oh, de la joie, s'il vous plaît, de la joie. La bonne nouvelle est arrivée le 20 mai.
Je te trouve pas autant enjoué que j'aurais imaginé.
Bah attends, moi ça fait déjà un moment, ça fait 5 jours que je le sais maintenant, alors ça va, la joie est un peu retombée.
Je comprends, limite t'es un peu déçu que ça soit que 2 saisons.
Ah, mais non, t'as écrit ça va. 4 points d'exclamation.
Non mais par contre, tu viens de spoiler l'annonce.
En tout, il y
a... Alors en tout cas, je disais, l'annonce 8. Est arrivée le 20 mai. La grande nouvelle, tant attendue, Airstopper a été prolongé, pas pour une, mais oui. Pour 2 saisons.
Mais tu l'as pas attendu très longtemps finalement, parce qu'ils l'ont vraiment annoncé rapidement.
Ça, ouais, ils l'ont moins d'un mois après la sortie.
C'est
ça fait,
très rapide pour annoncer
ça faisait, c'est sorti le 24, donc ça fait un mois et un jour que c'est sorti exactement.
C'est très 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 précis.
On est très
Donc nous aurons 3 saisons sûres de Airstopper, donc je suis super aux anges. Et en vrai, ça pourrait largement suffire pour bah,
te combler ?
Non, pour comment dire, tout adapter. Ça dépendra de où en sera Alice Osman et s'il y aura beaucoup plus de livres. Mais en tout cas, les deux livres qui seront là, enfin les deux livres qui sont les deux autres livres vont être adaptés dans la saison 2. Donc la saison 3, on suppose que ça sera le tome 5 qui va sortir en 2023 et le 6 qui n'est pas encore sorti. Mmh. Et normalement, la série devrait être clôturée. Enfin, de mon point de vue, ça devrait être fini. Donc, en fait, ils n'ont pas mis plus de saisons parce qu'il n'y aura sûrement peut-être pas besoin de plus de saisons pour raconter l'histoire. Enfin, de mon point de vue, moi, je le vois comme ça. Après, c'est pas non plus
après,
bon
si
de...
ça cartonne.
De tout étirer à l'infini. Hein. On sait ce que ça donne. Hein. Des fois, c'est vraiment pas bon.
Lost.
En tout cas, je sais pas si c'est un signe du destin, mais ils ont annoncé ça le 20 mai. Et le 21 mai, c'était la marche des fiertés dans notre petite ville. Alors, pour moi, c'est un signe du destin. Coïncidence.
Le
0
et
pas.
Le 2 à l'envers, ça fait ma date d'anniversaire.
Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça signifie ?
Que Damien est dans le casting de la saison 2.
La 3.
Oh.
Oui.
Quand ça lui laisse un peu plus de temps.
Travailler mon acting.
C'est ça. On va le voir passer en arrière-plan.
Comment ça, en arrière-plan ?
En figuration.
Bon,
est-ce que
cool,
ça
hein.
Se passe à Paris ?
Ouais, franchement, il pourrait
moi,
jouer Mickaël. Tu pourrais jouer Mickaël. Tu
pourquoi
seras un bon Mickaël. Si la saison 2, il y a un voyage à Paris. Donc normalement, ils devront venir tourner à Paris. Mais tu feras un bon Mickaël.
C'est très probable d'ailleurs, parce que même si on n'en est
le...
pas sûr...
C'est un... l'ami, hashtag petite amie de Victoria, la sœur de Charlie, qui, si vous m'écoutez, Tori n'est pas un fantôme. Vous avez... Ok, Airstopper n'est pas une série surnaturelle. Calmez-vous. Tout va bien. Non mais... C'était un truc qui
oui,
est sorti, un article qui est sorti qui disait que Tori était peut-être un fantôme. Donc non, Tori n'est pas un fantôme. Ça pourrait, mais non.
Merci pour ces bonnes nouvelles, ça m'a un peu remonté le cœur, ça veut rien dire.
Bah non, qu'est-ce qui se passe avec les mots
blah, blah, blah.
On va passer maintenant aux séries qu'on a regardées, le temps d'un petit jingle. Mathilde, tu as regardé une série et il y a un cœur noir.
C'est
bon bien
signe.
Ou mal.
C'est bon signe, c'est des cœurs. Peu importe la couleur.
Mais ils sont noirs.
Bah, ils sont tous noirs, alors on est mal.
On est mal.
Alors je commence le défilé, c'est ça ?
Le défilé, si tu veux aller.
C'était vraiment pas ce qui était prévu, mais... Ok.
Alors, on commence avec les 7 vies de Léa. J'ai regardé la saison 1 qui faisait 7 épisodes de 42 minutes. C'est sorti le 28 avril 2022 sur Netflix.
Ok.
Après la découverte du squelette d'un jeune homme, Léa se réveille en 1991. Incarnée dans la peau de différentes personnes, elle tente d'empêcher cette mort mystérieuse. Oh oh oh. Intrigant.
Ça a l'air pas mal.
Intrigant. Bon, on va pas tourner autour du pot ou autour de la série. Allez, j'essaie de faire une blague à la Damien.
Mais qui ça non, c'est super la balle perdue.
J'avoue. J'ai rien demandé.
Non, du coup, on va pas tourner autour du pot. C'est une très bonne série. En plus, elle est française.
Ça, c'est cool.
C'est cool, hein. Une série française qui sera peut-être pas annulée, celle-là. Peut-être pas. Mais en vrai, il n'y aurait pas besoin d'une saison 2, donc c'est compliqué.
Donc c'est encore une série française avec des voyages dans le temps. Parce qu'on en avait vu une le mois dernier.
Ouais, parallèle. Mais c'était sur Disney+, là c'est sur Netflix.
Alors, c'est de suivre.
C'est l'adaptation... c'est l'adaptation du livre qui s'appelle « Les 7 vies de Léo Bellamy » de Nathanael Trapp, qui est sorti en 2019. Je n'ai pas lu ce livre. Donc je ne peux pas vous dire si c'est une bonne adaptation, d'autant plus que, comme on peut le voir dans le titre, Léo a été transformé en Léa. Mm-hmm. Mais c'est cool, moi je suis contente. En tout cas, la série, elle m'a bluffée. J'en attendais absolument rien, parce que c'est la première série que j'ai regardée après Heartstopper. Pour vous dire, c'était genre...
Très, très, très compliqué.
Ouais, et pour vous dire, ça n'a pas super bien commencé avec cette série. Ça commence par une scène où t'as Léa... Qui fait la fête, mais vraiment en mode désabusé, à prendre la drogue et tout ça. Et moi, je me suis dit, ah bah voilà, une série pour ados, qu'on est reparti dans les travers des séries pour ados. Et puis finalement, une super surprise. En gros, lors de la soirée de cet épisode, Léa découvre le corps d'Ismaël, disparu depuis 30 ans. Elle s'endort bouleversée par cet événement et se réveille le lendemain dans le corps d'une personne inconnue, donc en 81. Ses voyages se poursuivent tout au long de la série et elle se rend vite compte que les actions qu'elle fait en 1991 impactent celles de 2021. La série repose sur le principe du voyage dans le temps comme il est utilisé dans Retour vers le futur.
Oui.
Oui. En gros, quand elle fait des trucs dans le passé, ça fait des trucs dans le futur. Ouhouhou. C'est dangereux. C'est très dangereux. En fait, cette série, elle est trop bien. Il y a beaucoup de trucs à saluer. Déjà, le casting et le jeu d'acteur. Reka, alors franchement... Son nom de famille, ça va être super compliqué.
Si, tu l'entends super souvent.
Azanavicius.
Oui, en plus, pour le coup, ça file droit comme une
ah
voiture.
Ah ouais. Moi, j'ai un peu de mal. Qui interprète Léa est super bluffante. Malgré le fait qu'elle a un écart d'âge plutôt important entre l'héroïne qu'elle incarne et son âge. En gros, l'héroïne a 17 ans et elle a 27 ans.
Oui, plutôt important, c'est...
Bah... Oui, et en même temps, ça fonctionne super bien quand même.
Je viens de checker, peut-être que des gens se posent la question. C'est la nièce de Michel Hazanavicius, le réalisateur d'OSS 117 notamment.
J'étais surpris
quand même. Les deux premiers.
Okay.
Et deuxième artiste, bien sûr, surtout.
Bah,
et d'un truc qui est sorti super récemment, Coupé. Oui. Non
oui, ah, je connais pas. Mais en tout cas, elle est bluffante, vraiment. On y croit vraiment. Alors que, bah, comme je disais, elle a quand même 10 ans d'écart avec le personnage qu'elle incarne. Après, il y a Khalil Ben Garbia, qui est également très bon dans le rôle d'Ismaël, et on va en parler après, mais il joue également dans Scam. Donc, c'est pas...
Tout est lié.
Tout est lié. Et le reste du casting et son également super bons. En fait, il y a un truc qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, chacun d'eux arrive vraiment à jouer le fait que Léa est dans leur corps, le fait... qu'elles ne sont pas à l'aise dans ce corps car ce n'est pas le leur. Je ne sais pas si vous voyez. En gros, Léa est dans leur corps, mais du coup, ce n'est pas le corps de Léa et elle galère pour bouger, les mouvements et tout. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à jouer.
En fait, il a fallu que les acteurs et les actrices
jouent
de manière un peu commune pour donner l'impression, enfin cette impression-là.
Oui, c'est plutôt... Moi, je trouve que c'est bien fait. Après, il y a une voix off qui est présente pendant toute la série, et ça fait très narrateur de roman, et moi c'est un élément que j'aime beaucoup, et en fait je pense que c'est l'adaptation qui fait ça, et on l'entend même quand elle est dans les différents corps, et on entend toujours une voix féminine, c'est sa voix, la voix de Léa, même quand elle est incarnée dans le corps d'un homme en fait. Donc je trouve ça plutôt, j'ai trouvé ça cool. Les années 90, si vous aimez les années 90, alors vous allez kiffer. Il y a des styles rétro, des voitures, la façon dont parlent les gens aussi à l'époque.
Yo-yo.
Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Les activités qu'ils font, tout ça. Tout y est, vraiment. On est en mode, on est vraiment dans les années 90, on est immergé. Et on va faire le petit point mode, parce que j'adore le petit point mode. Vraiment, le travail sur les costumes de Léa et Roman, qui sont les deux héroïnes de cette série, sont trop cool. C'est un espèce de truc sportswear, vraiment trop bien. Le final est magnifique. J'ai pas besoin d'en dire plus. Il faut vraiment que vous regardiez.
Je vais pas spoiler.
Non, je spoilerai pas. Mais en tout cas, il y aurait pas besoin d'une saison 2. De mon côté, moi, la fin me convient. Même c'est une fin très poétique, un peu dure aussi. Mais moi, je la trouve. Je trouve qu'elle se suffit elle-même.
Elle se rend compte qu'elle était Ismaël depuis le début.
Non. Mais du coup, si vous voulez en savoir plus sur cette série, j'ai écrit un article qui sortira fin de semaine, donc qui sera disponible quand le podcast sera mis en ligne.
Mais il n'y a pas de suite au roman ?
Non.
Bon, donc, il n'y a peut-être pas de suite à la série.
Il n'y avait pas de suite à Certain Reason Why.
Exact. Exact. Bien vu. C'est tout bon ?
C'est tout bon.
Eh bien, on te laisse la parole quand même pour parler d'une autre série.
On parle de And Just Like That. Et c'est comme ça que... C'est la saison 1 de 10 épisodes qui font 38 minutes. C'est sorti le 9 décembre 2021. C'est dispo sur Salto en VO sous-titré et maintenant en VF aussi. Vous pouvez regarder dans les deux langues. Et alors, il y a un résumé, clairement, en fait, je ne vais pas l'utiliser parce que je trouve que ça ne sert à rien. On va directement passer à mon avis, mais je vais vous dire pourquoi. En fait, non, mais cette série, c'est le retour de Sex and the City dans un nouveau nom, mais c'est les mêmes personnes. On retrouve Carrie, Charlotte et Miranda. Il n'y a qu'une des héroïnes de Sex and the City qui s'appelait, je ne sais même plus.
Jacqueline.
Ça non. Y est, elle est déjà blacklistée.
Qui n'est plus là.
Elle n'a pas voulu revenir.
C'est Samantha, non ?
Oui, Samantha,
ah,
ouais.
Comment je sais ça ?
Qui n'est plus là. Mais sinon, les autres sont là. Et vraiment, cette série, elle commence... elle met tout de suite le ton. Voilà. Le décès de Monsieur Big, dès le début de la série, annonce le ton. Enfin, en tout cas pour moi. C'est mais... comme si on disait, on tuait Sex and the City et on fait une autre version. Mmh. On passe à autre chose.
C'est presque un soft reboot, un peu, quoi. Ouais. On garde les mêmes personnages, mais on raconte d'autres histoires.
C'est un peu ça.
En les mettant face à des nouvelles, nouveaux enjeux, des nouvelles histoires.
Ouais. Quoi. Mmh. En vrai, je sais pas trop quoi dire de la série, car elle essaie d'aborder énormément de choses, mais vraiment beaucoup trop de choses. Je comprends le souhait que Sex and the City est une série importante et que elle a, même si elle le faisait d'une façon pas très bien, elle parlait aux femmes et tout ça. Enfin, je sais pas comment... Elle a servi à l'émancipation de la femme d'une certaine façon, même si elle le faisait pas très bien. Mais là, on dirait vraiment qu'ils renient tout ça. Et du coup, ils se sont dit, vas-y, on va faire une saison et en je sais plus combien... 10 épisodes, on va raconter le plus de choses possibles. Alors, clairement, on va essayer de dire un peu de quoi ça parle. Il y a le deuil de Monsieur Big, le divorce de Miranda qui tombe amoureuse d'une femme... La fille de Charlotte qui remet en cause son identité de genre, son autre fille qui galère avec ses premières règles, et ça, c'est clairement que quelques éléments, enfin que les trucs que je me rappelle qui m'ont marqué, mais il y en a encore plus, beaucoup plus. La série, elle fait un virage à 90 degrés, et elle laisse des copines qui parlent de mecs et de sexe au placard. Il n'y a plus aucune de ces conversations, vraiment. C'est un peu déroutant en fait parce que on se demande comment les personnages ont pu changer aussi vite de personnalité. Je sais pas si vous comprenez.
Bah aussi vite pas vraiment parce que je sais le deuxième film, je sais pas quel âge il a mais c'était il y a un moment déjà quand même.
Oui, mais en gros mine de rien ça reste les mêmes personnes.
Oui oui, non mais je l'ai pas vu donc je sais pas mais
ah, je
la
pas
parentalité
vu
ça change les gens aussi.
Bah il y a Miranda, son fils, il a plus de 25 ans. Enfin, en gros, ça fait longtemps qu'elle est parent. Et je suis d'accord après que pour Charlotte, ses filles, elles sont en pleine adolescence. Donc forcément, elle est un peu dans une passe difficile et elle peut évoluer. Mais c'est même pas elle qui évolue le plus. Elle se fracasse juste sur ce que ses enfants lui disent. Enfin, ses enfants sont dans l'adolescence. Du coup, bah, elle découvre les problèmes d'identité de genre qu'elle connaissait pas. Ce genre de choses. Donc, elle apprend en même temps que ses enfants. Donc, c'est le personnage qui est presque à le plus de normalité, tu vois. Enfin, en tout cas, c'était un peu... Enfin, je sais pas. En même temps, les personnages ont vieilli et le monde a changé. Donc, c'est ce qu'ils essaient de montrer, en fait. Mais est-ce que c'était utile ? C'est ça, la vraie question. Bah, moi, en fait, je sais pas. Est-ce que cette série, elle m'a apporté quelque chose ?
Moi, j'ai envie de proposer une analyse. C'est que les... c'était un public globalement féminin qui regardait Sex and the City à l'époque. Aujourd'hui, ces femmes ont vieilli. Je ne sais pas à quel âge elles ont. Elles ont peut-être 40, voire 50 ans. Et bah, c'est un peu pour leur dire aussi, peut-être d'une manière, mettez-vous à la page. Les valeurs qu'on vous a inculquées dans les années 90, elles ont évolué. Elles sont peut-être obsolètes. Maintenant, voilà un peu la réalité des femmes en 2022. Donc, c'est peut-être une manière de refaire la même chose auprès du même public de manière plus moderne.
Ouais, donc en fait, c'est juste que la série me touche pas plus que ça parce qu'elle me concerne pas.
Peut-être que c'est
ça.
Et aussi, je te connais bien, donc je sais que plein de choses abordées dans la série, tu les connaissais déjà. Et peut-être que là, c'est abordé d'une manière avec un regard de découverte. Et du coup, t'as pas cette découverte-là.
Ouais. Mais je trouve qu'en fait, ces découvertes fonctionnent quand on parle de séries pour ados, ce genre de choses. Mais là, on a l'impression que ouais, c'est éduquer des adultes. Quoi.
Bah, c'est peut-être ça le but et je trouve ça bien aussi de le faire. De proposer un programme pour les adultes qui éduque les adultes. Que les adultes de 40 ne soient pas obligés de regarder Scam, par exemple, avec malgré tout le bien que je pense de Scam. Ce n'est pas une série pour les grands adultes.
Les vieux adultes.
Les vieux adultes.
Vous essayez de dire quoi ? Que je n'aurais pas regardé Scam ?
Non, quand on dit les grands vieux adultes, c'est 40-50 ans.
Ouais, mais en tout cas, je sais pas, mais moi, ça m'a pas... Moi, je pense pas que je regarderai la suite parce que... Bah, je sais pas.
Il y aura une suite déjà, c'est sûr ?
Bah, je sais pas. J'en sais rien.
Eh ben, je vais vous parler maintenant d'une série qu'on connaît, mais donc je vais le faire assez vite. C'est Stranger Things. Je prépare l'arrivée de la saison 4. J'ai regardé les deux premières saisons qui contiennent respectivement 8 et 9 épisodes de 45 à 50 minutes. C'était sorti en 2016 et 2017. Et c'est toujours sur Netflix. Y a-t-il besoin que je vous raconte l'histoire ?
Non, ça va.
Bon alors, ça vaut quoi Stranger Things, c'est 6 ans après ? Parce que maintenant, on sait, c'est devenu maxi populaire. Les acteurs et les actrices sont d'immenses stars qui jouent à peu près partout. Et puis, c'est déjà culte. Eh ben, je suis désolé de vous dire, pas de surprise, c'est toujours aussi bien en fait. C'est vraiment toujours aussi bien. L'ambiance de la saison 1 est extraordinaire. La scène d'intro des 4 persos principaux du premier épisode, je peux la regarder en boucle. Elle est folle, elle est trop bien. La musique, elle a clairement redéfini mes goûts musicaux en termes de musique synthwave. Si les synthés ne résonnent pas, la synthwave, c'est vraiment les gros synthés. Quoi.
Ouais.
C'est la musique années 80 avec des gros synthés. Et sur YouTube, souvent, on trouve plein de synthwave avec des fonds violets et des voitures qui roulent à l'infini pendant 12 heures. Vous faites jamais ça ?
Non.
Eh bien, vous ratez quelque chose. Enfin, voilà, c'est un vrai genre de musique avec des gros synthés. Si aujourd'hui, les synthés... Bah, par exemple, The Weeknd, ces deux derniers albums, c'est très synthwave, quoi.
Okay.
C'est des gros synthés et très, très 80s et tout ça. Bon, et pour revenir à Stranger Things, je vais vous prendre un peu à contre-pied et vous dire plutôt ce que j'ai moins aimé pendant les revisionnages de ces deux saisons. Et ben, le rythme et l'ambiance de la saison 1 s'essoufflent un peu au fur et à mesure des épisodes, jusqu'au dernier où ça repart un peu, mais... Il y a un peu un ventre mou, on fait « ouais, il faudrait bien que ça accélère un peu ». Surtout quand on connaît déjà le truc. La VF de la saison 1 est vraiment une cata-cata.
Ah, mais il ne faut pas regarder en VF.
Ouais, bah, mais je faisais toujours un peu un truc à côté, mais c'est vraiment pas génial. Et d'ailleurs, j'ai découvert que en fait, 11, elle s'appelait Elf, parce que c'était un jeu de mots avec Eleven. Mais ça, je ne l'avais jamais remarqué avant.
Mais il faut dire qu'en VF, tu ne l'as pas, ce jeu de mots aussi ?
Il n'y a pas, on l'appelle Elf, et on l'appelle 11. Du coup, c'est quand Mike dit on va t'appeler Elf, je dis ok, c'est gratos. Mais là, je viens de seulement le comprendre. L'épisode 7 de la saison 2, dont on avait tant parlé, il est toujours aussi hors sujet. C'est très bizarre. On sait, même, il importe rien. J'avais presque envie de le sauter.
C'est celui avec sa famille.
Oui, c'est celui où 11 fugue et retrouve sa maman. Et surtout, une grosse partie, elle est, je ne sais plus dans quelle grande ville.
Avec sa sœur.
Et avec sa sœur qui est une marginale et elles font des trucs pas bien. Et...
Mais ça, j'ai tendance à dire que c'est genre ils les ont introduits pour les utiliser à un moment donné. Sinon, ça n'a pas de sens.
Ouais, peut-être qu'on va le voir dans la saison 4 là, hein, je ne sais pas. Ou alors, c'était une sorte de... Juste de hors-sujet pour dire bah, il n'y avait pas que 11 qui avaient des pouvoirs. Mais si ce n'est pas exploité, ce sera très décevant. Les effets spéciaux sont pas toujours dingos dans la saison 2, par exemple les démochiens quand il y en a plusieurs, ça fait un peu ça m'a fait penser à Resident Evil et PlayStation 1, c'était vraiment pas un super compliment. La saison 2 elle est moins surprenante, elle a quelques longueurs et voilà. Vivement qu'on garde la saison 3 parce qu'il nous reste ça à finir.
On a commencé.
Et puis comme ça, on pourra découvrir la première partie de la saison 4. Et j'ai très hâte. Je suis très content que ça arrive.
Vous allez regarder la première partie sans attendre la seconde partie ?
Oui.
Bah oui, je pense.
Moi, je vais avoir du mal à tenir. Voilà. Bien, Mathilde, on te redonne le micro, le bâton de la parole.
C'est encore un cœur. C'est un cœur. Il y a un cœur. C'est un cœur.
On a vu. Ça veut dire que t'as détesté.
Non, j'ai adoré. Je vais vous parler de la série La grossesse de Monsieur Hiyama.
Monsieur Hiyama.
Oui. Monsieur Hiyama. La saison 1 de 8 épisodes qui faisait 26 minutes. C'est sorti le 21 avril 2022 sur Netflix. Quand un publicitaire à l'avenir vraisemblablement tout tracé apprend qu'il attend un enfant, il découvre les injustices sociales qui lui étaient jusqu'alors inconnues. C'est une série japonaise, qu'on pourrait dire que c'est un drama, sauf que du coup, c'est pas le format.
Oui.
Mais c'est une série. C'est vraiment fait par Netflix, pour le coup. C'est l'adaptation du manga du même nom, fait par la mangaka Eri Sakai, disponible en numérique aux éditions Akata en France. Je crois que c'est pas encore sorti en papier. Quelle idée de génie, vraiment. La série, elle dénonce le sexisme et les injustices que subissent les femmes en prenant le parti de faire tomber des hommes enceints. J'ai dit enceint, pas enceinte, attention. Ainsi, un homme se met à subir ces injustices et discriminations car il n'est plus vu comme un homme mais comme une femme car il porte un enfant, donc à cause de sa grossesse. C'est cool, hein ? Ça vous fait peur ? Le pauvre, mon Dieu. Cette série dénonce beaucoup de choses.
Comment ça se passe ? Comment il fait pour tomber enceinte ? Est-ce qu'on parle de biologie ou pas ?
Non, pas vraiment. Mais
si
gros...
tu m'avais expliqué un peu...
De quoi ?
Bah que on est dans une sorte de monde...
On est dans un espèce de futur où, en gros, ouais, ça arrive, il y a de plus en plus d'hommes qui se mettent à être enceintes.
D'accord.
À être enceintes.
Ok.
Au départ, c'est juste quelques-uns et puis c'est de plus en plus. Cette série dénonce beaucoup de choses, mais j'ai été super choquée par les contraintes liées à l'avortement au Japon. Mais vraiment, ça fait vraiment peur. Déjà, si tu vas avorter au Japon, il faut que tu remplisses un formulaire de consentement, mais les deux parties doivent le remplir. Ça veut dire que si tu es une femme et que tu vas avorter, si tu n'as pas la permission de la personne avec qui tu as conçu ce bébé, tu ne peux pas.
Déjà, il faut savoir qui c'est. Enfin,
oui, en plus, bienvenue. Bienvenue dans le monde. Non mais sérieux, c'est quoi cette truc ? Après, il faut déclarer à la mairie la mort de l'enfant après l'avortement. Et il faut aussi enterrer le fœtus comme si c'était pas assez horrible d'avorter. Tu dois faire un enterrement.
Je pense que c'est fait exprès.
Oui. Oui, clairement ça montre que c'est pour dissuader les gens d'avorter. Enfin moi je le vois comme ça en tout cas. Cette série est vraiment bien faite. Son discours est très bien construit et c'est super intelligent. Monsieur Hiyama, qui a eu comme première réaction de vouloir avorter, c'est pour ça qu'on connaît toutes ces choses autour de l'avortement, prend la décision de garder l'enfant. Ce que Harry, qui est la mère de l'enfant, accepte avec joie, car on apprend dans la série qu'elle souffre d'endométriose. Ce qui fait qu'elle avait beaucoup moins de chances d'avoir un enfant. Et clairement, la façon dont ils traitent l'endométriose aussi dans la série, ça fait grave bader. Genre, la doctoresse, elle lui donne une pilule. La pilule, voilà. Elle lui donne la pilule pour je ne sais pas.
Est-ce que c'est pas une des premières fois où une série occidentale Enfin, parce que tu dis que c'est produit par Netflix, parle d'endométriose.
Je sais pas du tout.
J'en ai jamais vu.
Mais c'est vraiment... ils disent pas le mot. En fait, ils disent qu'elle a des problèmes et ils disent qu'elle devrait se faire opérer, normalement. Donc moi, j'en ai conclu qu'elle souffrait d'endométriose. Et en fait, elle se fait pas opérer parce qu'elle peut pas avoir de jours de congé à cause de son travail. Donc, cool. La médecin lui dit « Oui, vous savez, si vous vous faites pas opérer, vous allez finir par être stérile. » Et Lose a dit « Bah ouais, mais je peux pas avoir de jours de congé. » Voilà. On en est là. C'est cool, hein. Ensemble, ils doivent adapter leur vie et leur relation pour l'arrivée de leur enfant. J'ai beaucoup aimé cette citation issue de la série. C'est Harry qui l'a dit, donc la maman, qui dit « On peut créer une nouvelle relation qui sera la nôtre et élever notre enfant ensemble. On n'a pas besoin d'être piégé par des idées ou des valeurs fixes. Il y a tous ces rôles et ces attentes, mais tout le monde est différent. » En fait, Harry dit ça dans la série pour exprimer le fait qu'elle, déjà, elle veut pas se marier. Elle veut avoir cet enfant, mais au départ, elle n'est pas sûre de vouloir se mettre en couple. Enfin, en gros, elle veut faire sa propre famille à son image et elle veut pas suivre les normes que le Japon et que ses propres parents veulent lui imposer. Vraiment, c'est une très bonne série. Ça dénonce beaucoup de choses. Et regardez-la si vous pouvez, c'est pas très long.
C'est vrai. Ça m'a donné envie, en tout cas, déjà quand tu m'en avais parlé la fois d'avant. On te laisse la parole pour un méga marathon.
Oui, alors c'est le marathon de Scam France. J'ai regardé les 9 saisons, ce qui fait 92 épisodes de 25 minutes. C'est sorti le 9 février 2028, la saison 1 bien sûr, et c'est dispo sur France TV Slash et Salto. À chaque saison, nous suivons le parcours d'un personnage et découvrons au fil des événements la vie de ce groupe d'amis iconiques, mais aussi celle des personnes qui elles côtoient. Qui elles côtoient, ça marche aussi.
Oui.
Donc j'ai regardé les 92 épisodes, soit 9 saisons. Du coup, on va pas trop rentrer dans les détails. Vous comprenez qu'on n'a pas trop le temps. Par contre, j'ai pris beaucoup de notes sur chaque saison.
Attends, t'as regardé 9 saisons là ?
Ouais. 92 épisodes de 25 minutes.
C'est beaucoup ?
Ouais.
D'accord.
Mais Scam, c'est une très bonne série pour ados. C'est français. Est-ce que je répète ce que j'ai dit pour les 7 vidéos Léa ? Oui, mais c'est pas du tout le même genre de série. Vraiment pas.
Ça voyage pas dans le temps ?
Non, personne ne voyage dans le temps.
Est-ce
c'est
qu'on
très
voyage
contemporain.
Pas tout le temps un peu dans le temps.
Bah
dans
si,
le
parce qu'on
vieillit. Ça démarre à un point et...
Bah si. Chaque saison est construite de la même façon. Il y a un ou une protagoniste principale. Vous voyez quoi. Un gros problème. Il y a un gros problème. Des hauts, des bas. Plus des intrigues des persos secondaires. Une résolution toujours positive.
On dirait que tu décris un manuel de scénario.
Et ben voilà, c'est le scénario. Ça s'applique pour chaque saison. C'est comme ça. Et la plupart du temps, ça fonctionne par duo. Souvent, il y a l'histoire du perso principal et elle se mêle à celle d'un autre personnage secondaire et ça fonctionne par duo. La plupart du temps, soit c'est des meilleurs amis, soit ils sont en couple, soit ils ont un lien frère-sœur, sœur, enfin des choses comme ça. Voilà, ça fonctionne comme ça. De la saison 1 à la saison 5, on suit une bande d'amis du lycée. Un peu comme dans Skins, vous voyez le rapport, Skins. Puis, à partir de la saison 6, notre bande de potes quitte le lycée. Donc, on se retrouve avec des nouveaux.
Comme dans Skins.
Oui.
Mais les nouveaux sont liés par une fille qui s'appelle Lola, qui est la sœur d'une des persos des premières saisons. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
Comme dans Skins,
c'est
comme
incroyable.
Comme dans Hélène et les garçons.
Comme dans beaucoup de choses. À partir de la saison 6 jusqu'à la 9, on suit la MIF. C'est un groupe d'amis, mais c'est plus qu'un groupe d'amis.
La MIF, ça se disait en 2016.
C'est la MIF. C'est...
Ils s'appellent comme ça ?
Oui, ils sont appelés la MIF.
C'est pas toi qui as décidé.
Yo-yo.
Non, c'est pas moi.
Yo-yo, la MIF.
C'est pas moi. Les thématiques abordées jusqu'à maintenant dans Scam. Attention.
Asseyez-vous.
Le harcèlement, l'homosexualité, le viol, l'islamophobie, le racisme, comment on peut dire les handicaps, oui, on va dire ça. L'addiction, le deuil, les maladies mentales, le déni de grossesse, la parentalité, la transidentité, l'abandon, la maltraitance, la pauvreté, la séropositivité, la dépression, l'écologie, trois petits points.
C'est même pas exhaustif.
Parce que je pense que j'ai pas tout mis. Voilà. Ça en fait des choses, hein.
Oui, ça te faut être costaud.
Ouais, faut quoi. Être costaud. Clairement, faut être costaud. Mes saisons préférées, c'est la saison 3, 4, 5, 7. On va dire ça comme ça. Dans la saison 3, on parle, le personnage principal, c'est Lucas, et son duo, c'est Elliot. Et en gros, la série nous parle d'homosexualité et de bipolarité. Donc Lucas découvre son homosexualité, il se met à sortir avec Elliot, et il s'avère qu'Elliot est bipolaire. Mmh. La série, voilà, c'est un résumé rapide. La saison 4, ça parle d'Iman. C'est, en gros, on suit la vie de cette femme qui est noire et musulmane, et lycéenne, bien évidemment. Et du coup, on suit son quotidien. Pourquoi est-ce qu'elle... Enfin, comment dire, comment elle vit d'être une femme noire, musulmane et pratiquante. Et tout ça. Mmh. Et c'est pas facile. Vraiment, c'est une série qui m'a beaucoup... Enfin, franchement, elle m'a beaucoup marquée parce que on voit du point de vue d'une personne musulmane. Et je trouve que c'est très important de montrer ce point de vue-là. La saison 5, elle parle d'Arthur qui perd l'audition du jour au lendemain et de la gestion du jour au lendemain, mais aussi parce que son père était violent avec lui. Donc
il perd l'audition parce que son père était violent ?
Ouais. Ah. En gros, son père le maltraite, il perd l'audition d'une oreille et il s'avère que quelques années plus tard, il se fait voler son argent dans la rue. Comment on dit ça ?
Racketter.
Ouais, il se fait racketter et du coup il se prend un coup de poing dans l'autre oreille et du coup il perd totalement l'audition.
Cool. Le bad.
Oui, le gros bad. En tout cas, dans cette saison, la gestion du son est incroyable, vraiment. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est trop bien. J'avais l'impression de plus rien entendre.
Une ingé son, certainement.
Bah, la personne qui a fait ça est incroyable. La saison 7, on parle de Tiff, de son déni de grossesse. Et de son amoureux, Max, qui est un homme trans. Voilà. C'est un rapide résumé. Mais ça parle de ça. Et c'est mes saisons préférées. Mais évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'autres saisons. Les discours de ces quatre saisons m'ont vraiment beaucoup touchée. Après chaque saison raconte des choses importantes. J'ai appris énormément de choses sur beaucoup de thématiques et c'est super enrichissant. C'est vraiment une série super intelligente. C'est parfois dur, mais comme je le disais plus tôt, ça finit toujours bien. Et la saison 10 est en cours de diffusion, donc je vous en parlerai quand elle sera finie. Et clairement, j'ai vu le premier épisode, fallait s'accrocher. C'était pas facile.
J'en profite pour dire un petit truc sur Scam, que j'ai pas regardé, mais moi j'avais découvert cette série grâce au compte Insta de France TV Slash, qui profite de la sortie de chaque épisode, ou de chaque saison, je sais pas trop comment c'est lié. Pour parler plus en profondeur des thématiques justement abordées dans la série, avec des posts ou des stories. Des fois, c'est que du texte, des fois, c'est des vidéos, des fois, c'est des témoignages. Mais moi, j'aime bien les lire parce que bah, du coup, ça parle de tout ça et c'est très intéressant. Et c'est un super complément, j'imagine, à la série où ça donne la parole à des vraies personnes, des fois, qui sont touchées par ces thématiques. Voilà, si ça vous intéresse. En plus, il est vraiment très chouette, ce compte Insta. Voilou, on va parler d'une autre série, encore avec un cœur.
Oh oui.
Eh bien, Mathilde, je te laisse en parler.
On a regardé Why Are You Like This, la saison 1 de 6 épisodes qui fait 24 minutes, qui est sortie le 16 février 2021 sur Netflix, qui parle de trois bons amis d'une vingtaine d'années. Gérant travail, plaisir, politique identitaire et nuit de folie dans cette satire inclusive de la vie de jeunes gens à Melbourne. Et oui, j'ai regardé cette série à cause de son titre principalement, qui est écrit sur ma porte. C'est un mot passage issu de Airstopper. Et sinon, ça fait aussi référence à une chanson que j'aime beaucoup. Qui est également dans la BO de Airstopper, qui est chantée par Orla Gatland, qui s'appelle Why Am I Like This. Voilà. C'est bon, c'est mieux.
Au top.
Bon, clairement, c'est un énorme coup de cœur, cette série. Alors, ça parle de Austin, Mia et Penny. Voilà, c'est tout.
Ça coule.
Ils forment un incroyable trio aussi improbable qu'hilarant.
Ah, ils sont pas forcément improbables. Ils auraient pu être amis vu qu'ils s'entendent bien.
Moi, ah oui, mais improbable.
C'est la meilleure définition de l'amitié. Ils pouvaient être amis, vu qu'ils s'entendent bien.
Non, parce que improbable, moi, quand tu dis improbable, je me dis c'est des gens qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, tu vois.
Ouais, mais moi, mais je trouve qu'ils sont un peu improbables, quand même.
D'accord.
Je trouve la série super intelligente. Elle part de plein de problématiques en se servant de protagonistes qui luttent à leur façon contre ces problématiques. Mmh. Penny, c'est clairement ma conscience. Voilà, disons-le. Si je disais tout ce que je pense, je serais comme elle. Je lui ressemblerais. Je serais Penny. Est-ce que les gens m'aimeraient ? Je ne pense pas. Mais ça serait moi.
C'est vrai.
Puis il y a Austin, qui est totalement perdu car il se définit uniquement comme homosexuel et ne sait donc absolument pas qui il est, hormis cette identité. Et du coup, ça pose des petits problèmes. Mmh. Il a du mal dans la vie. Et enfin, il y a Mia. Consciente de sa situation de femme bisexuelle racisée, elle essaie toujours de se servir de ses éléments pour y gagner quelque chose. Parfois, j'étais outrée de son comportement et d'autres fois, je me disais « Ouais, bon, bah, elle a pas tort, en vrai. » En gros, cette série est tellement marrante, légèrement malsaine, mais elle est avant tout la meilleure alliée de la cause. Regardez, vous comprendrez. Moi aussi, je suis la meilleure alliée de la cause.
C'est clair.
Moi, j'ai bien aimé le premier épisode, le deuxième et le dernier. Mais entre tout ça, ça m'a laissé un petit peu perplexe. En fait, j'ai cru comprendre que la série voulait raconter des trucs, puis peut-être non, puis peut-être quand même. En fait, je crois que je suis un peu passé à côté. Mais ça n'enlève rien à la qualité de la série, c'est plutôt moi qui suis passé à côté. Néanmoins, il y a d'excellentes réflexions politico-sociales. Je pense que je serais Penny aussi si j'avais envie d'aller au bout de mes pensées. Mais des fois aussi, je me dis, je suis un gars, donc je ne peux pas me permettre de tout dire. Je serais déplacé. Quoi ?
Tu te rappelles de ce cahier avec la meilleure invention du monde ? Damien a regardé les deux premiers épisodes pour savoir qui passe en premier.
Je comprends pas de quoi tu parles.
Mais si, il y a son chef dans la voiture quand il sait pas qui...
Ah oui, ah, le oui. Diagramme de prise de décision.
Le
oui.
Diagramme de prise de il décision. Il est très drôle. Il est incroyable. J'ai presque envie d'en faire. Hein. Et de le montrer à tout le monde, genre... Non, tu n'as pas la priorité. Tu es un homme blanc, cisgenre. Tu ne peux pas parler.
Voilà. Non, mais bah, je
bah, enchaîne du coup. Puisque...
non mais malgré tout, j'aimerais bien que plus de séries aient ce ton, parce que c'est vraiment un ton.
C'est The Office le truc. Hein.
C'est, ouais, moi j'avais trouvé que c'était un The Bold Type un peu trashos, mais trashos dans le bon sens, vraiment qui y va.
Ouais,
quoi.
C'est vrai que c'est un peu
The Bold Type. C'est trois copines new-yorkaises
qui parlent de leur vie, qui parlent de leur amour,
surtout
de leur
vie sentimentale,
travail.
Un peu de leur travail aussi, mais c'est très. C'est très bah, Sex and the City, du coup, un peu pour le dire, très new-yorkais. Il y a une des filles, par exemple, qui découvre sa bisexualité. Ou quoi ?
Bah rien.
Ah d'accord. ou une autre qui sort avec son patron. Enfin voilà, c'est des petits problèmes, des petites caractéristiques de la vie. Mais voilà. Là, en tout cas, ça va beaucoup, beaucoup plus loin et c'est impertinent. Et
drôle.
Et c'est assez drôle, c'est vrai. Mais voilà, par rapport à ce que tu as dit, en fait, ça me permet de revoir un peu ma copie où clairement, je n'avais pas compris ce que racontait Austin. Mais tu as tout à fait raison et j'aime un peu plus, du coup, Austin.
Ah oui, tu ne voyais pas à quoi il servait dans
je
la série.
Je ne comprenais pas à quoi Austin servait, en fait.
Bon, en fait, il sert à vraiment à montrer que... En fait, vu je pense qu'il a une trentaine d'années, Austin.
C'est marqué vingtaine dans le résumé.
Ouais, hein, mais je sais pas.
Mais il fait jeune.
Ouais, mais du coup, lui, il est vraiment... Bah, quand Penny, elle lui demande de dire qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il aime et tout ça, qui il est, il répond bah, je suis gay.
Mm. C'est voilà. Pour ça, je pense que c'est moi qui suis passé à côté de la série et pas la série qui...
Mais ratée. Je pense qu'en fait, c'est aussi pour montrer qu'à force de discriminer les gens, de leur dire bah, tu es homosexuel, bah, les gens en fait se définissent que comme ça. Et ils oublient qu'ils ont aussi le reste d'autres choses, en fait, que c'est leur identité sexuelle ne les définit pas à 100% en tant que personne, en fait.
Oui, c'est vrai. Ben voilà, finalement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On passe à la suite.
Yep.
On parle de la dernière série de ce mois-ci. C'est Younger, la dernière saison. C'est vraiment pas la saison 8.
Qui veut faire le résumé? Moi, je suis chaud pour faire le résumé, je veux bien le lire. Alors, c'est trois amis d'une vingtaine d'années qui gèrent travail, plaisir et politique, identité, nuit de folie dans une satire inclusive de la vie de John Hamilton.
Je crois
mais
qu'il
on
y a des copies
de
collées, là. Non, Younger, ça parle de Lisa, c'est une fille, une maman d'une quarantaine d'années qui n'arrive plus à trouver de travail, de quoi elle se fait passer pour une jeune d'une vingtaine d'années et arrive à se faire embaucher dans une maison d'édition.
Et elle tombe amoureuse du patron, et comment dire, romantique.
C'est à peu près
c'est
ça.
C'est à peu près
c'est
ça,
vrai
ouais.
Oh, oui. Trop bien.
Sauf qu'avant, elle est tombée amoureuse d'un mec
tatoueur.
De 20 ans.
Ah. En tout cas, il y a 12 épisodes de 24 minutes. C'était sorti en février.
Non,
ah ben
non,
mais du coup, j'ai tout raté. C'était sorti, je sais pas trop quand, c'est sur Salto. Mathilde, je te laisse la parole.
Ah, c'est trop bien. La saison de la déception. Pas de cœur, cœur barré.
Pas de cœur.
Cœur barré, cœur cassé. Mon cœur est brisé. C'est comme ça qu'on peut définir cette saison. Younger était une de mes séries préférées. Si vous allez sur TV Showtime, elle était dans mes séries préférées. Est-ce qu'elle y est aujourd'hui? Non. Non, je l'ai enlevée. Je l'ai enlevée. Ah là là. Non mais... Sérieusement, j'adorais cette série parce qu'elle parlait d'édition et c'était une romance et elle parlait de plein de choses cool. Et puis voilà, ça a déraillé. Ah là là, c'est triste. En vrai, je sais pas trop à quoi sert cette saison. Enfin, pendant toute la saison, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils veulent en venir? C'est lent, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Où est Josh? Pourquoi on voit pas Josh dans cette saison? C'est vraiment une vraie question que je me suis posée presque à chaque épisode. Oui, je suis team Josh, je l'avoue. Clairement, c'était vraiment pas foufou. Puis, il arrive le dernier épisode, et là, durant les trois dernières minutes, un miracle se produit. Josh, mais pas que, un miracle, vraiment, il y a un miracle. Mais j'ai trouvé vraiment, c'est mesquin, c'est pas cool, c'est tant de temps pour 3 minutes. Pourquoi?
Je vais juste faire une petite vidéo sur YouTube de 3 minutes.
Ouais.
Mais je suis d'accord, c'est complètement raté. Et ça, c'est pété.
Oh bah ça fait plein d'espace.
Vraiment, c'était pas ouf du tout, comme l'a dit Mathilde. À part qui va choisir Lisa, Josh ou Charles?
Josh.
Bah on s'en moque.
Franchement, je crois qu'on s'en moque en fait. C'est même.
Et ben, à part répondre à cette question, ces 12 épisodes ne vont nulle part.
Mais même pas parce que Josh est complètement out de l'histoire. Il n'est pas dans l'histoire.
Out.
Non pas juillet.
Non, enfin oui, t'as raison. Josh, à un moment je le dis, mais Josh, on le voit 2 minutes par épisode.
On le voit
le
pas.
Et même plus.
Le mec
est même pas
est
récurrent,
pas là.
Quoi. Il est même pas. Enfin bref, il est là jamais.
On entend presque jamais la voix de Spider-Man. C'est décevant.
Oui, en plus, on entend très peu Donald Renew. Ça, c'est très dommage. À part donc un aboutissement plutôt pas mal, mais qui tombe un cheveu sur la soupe. Cette série, cette saison n'a absolument rien à raconter. C'est dommage. Les premières saisons étaient vraiment les meilleures.
Ah oui, les meilleures.
C'est des mots durs, mais...
Il faut dire les termes. On va passer maintenant au film... Mathilde, tu gardes le totem de la parole. Je parle tout seul.
J'ai l'impression que je fais le podcast tout seul.
Bah, t'as regardé beaucoup plus de trucs.
Si tu veux, je lis ce que t'as dit pour ton avis.
Mais par
contre,
on peut au moins te faire les résumés si tu veux.
Non, mais ça va aller. Enfin, si vous. Tiens, je commence et après, Damien, tu liras le résumé de ce que je dis. On va parler de Bubble qui est sorti le 29 avril 2022, un film qui fait 1h41, disponible sur Netflix. Et c'est un film d'animation réalisé par Tetsuro Araki qui a également réalisé les films de L'Attaque des Titans et de Death Note. Et voici le résumé.
Alors, l'histoire se déroule à Tokyo dans un monde inondé de bulles ayant modifié les lois de la gravité. Coupé du reste du monde, Tokyo est devenu le terrain de jeu d'un groupe de jeunes adeptes du parkour. Un jour, après une figure périlleuse, Ibiki, jeune prodige connu pour son style de jeu risqué, est propulsé vers l'océan dénué de gravité qui entoure la ville. Il est sauvé par l'intervention soudaine d'Uta, jeune fille au pouvoir mystérieux. Tous deux vont alors entendre un son que seuls peuvent percevoir. Pourquoi Uta a-t-elle rejoint Hibiki ? Leur rencontre les mènera à une révélation qui va changer le monde.
Et oui, tout à fait. Ils vont sauver le monde.
Transition. Transition.
Alors franchement, le film est super beau. Les moments où les protagonistes font du parcours, c'est trop classe. Ça m'a même donné envie de faire du parcours, mais je n'en ferai pas. Clairement pas. Non, pas à ce niveau-là. Franchement, regarde le film, alors, pas à ce niveau-là.
Le film a l'air de pas avoir de gravité, c'est une bonne idée.
Bah, en fait, les objets ont pas de gravité, mais toi, en tant qu'humain, si tu tombes, tu meurs.
Ça n'a aucun sens.
Enfin, en fait, les rochers volent.
C'est pas la...
volent.
Comme ça que la gravité marche.
Oui, bah écoute, les rochers volent.
La gravité, elle choisit.
Et les gens courent sur les rochers, mais s'ils tombent du rocher, ils tombent dans la mer. Oui. Et voilà, ils se noient.
Okay.
C'est vraiment les cours de seconde. Quoi,
oh, écoutez, physique. je ne sais pas. La musique est vraiment super bien, elle aussi. Elle correspond totalement à l'ambiance du film. Au niveau de l'histoire, ça m'a souvent fait penser à La Petite Sirène. Vous allez vous demander pourquoi, mais il y a un sens. Regardez
bah, y a
le
un
film.
Océan, ça dit, y a un
oui,
océan.
En plus. J'ai trouvé le récit très poétique, même si le film passe vite et qu'on n'a pas trop le temps de s'attacher aux persos. Moi, j'ai, à part Hibiki et Uta à qui on s'attache, les autres, c'est plutôt... T'as pas le temps, quoi. 1h41, il faut aller vite. Oui, bah, du coup, je me suis pas attachée. Et du coup, on comprend pas non plus trop les enjeux par rapport au reste du monde.
C'est dommage.
Tokyo est dans une... En gros, Tokyo... a eu un phénomène particulier, mais comment les répercussions sur le reste du monde, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que... Enfin, c'est un peu flou. Mais par contre, c'est clairement un film à voir pour les personnes qui aiment l'animation japonaise. Franchement, visuellement, c'est une vraie claque. Hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un truc aussi beau. Oui, clairement, Emilien ne c'est le regardait pas, alors que
bah
je
si,
l'ai forcé...
Parce que regarde, l'autre fois, tu as regardé un film d'animation qui n'était pas ouf.
Si, si, mais je l'ai forcé à regarder des scènes de parcours de Bubble.
Oui, j'étais forcé.
Ouais. Mais
je
il a...
t'en aller.
Voilà.
Bon, ok.
Ah, je peux continuer avec le suivant. Le suivant est court et pas très bien.
Ok. Bah, si tu veux, je lis le résumé.
Ouf, je suis pas sûr qu'on en ait besoin.
Ah tiens, je peux glisser. Hein.
Alors, on va parler de Senior Year, qui est sorti le 13 mai 2022, un film qui fait 1h52, disponible sur Netflix. C'est une nouveauté. Film réalisé par Alex Acastel. Avec Rachel Wilson, Justin Hartley et Angourie Rice.
Ah, elle a un prénom trop marrant.
Je vous tiens à dire que Justin Hartley, c'est un qui, c'est l'acteur qui joue dans This Is Us.
J'ai pas vu.
Ah oui.
Voilà.
Ok.
Une acrobatie qui dérape plonge une pom-pom girl dans le coma. Elle se réveille prête à devenir la reine du bal de promo, son rêve de lycéenne, mais avec 20 ans de plus. Voilà.
C'est clairement c'est... 40 ans... non, 20 ans... Ah ! Avec Jennifer...
je ne sais pas de quoi
Garner.
Tu parles. Je ne sais pas. Un film qui se veut plus marrant que profond. Oui, oui. C'est un peu vu et déjà vu. La fille pas populaire qui devient populaire, sauf que suite à un accident, elle tombe dans le coma. Elle a donc 37 ans à son réveil, mais 17 ans dans sa tête et veut devenir la reine du bal. Je sais pas trop quoi dire de plus. Je pense qu'on a bien résumé le truc. Le film fait des blagues sur l'évolution des mœurs et des mentalités. Et perso, ça m'a pas trop fait rire, en vrai.
Ah oui.
Voilà.
Je vois le genre. C'est oh, maintenant vous avez des téléphones. Oh là là.
Ouais. Ou alors comment ça on va plus dire le mot gay ? Ou non. Comment pourquoi on peut plus dire le mot pédale, tu vois, par exemple, ou oui. Des choses comme
ah
ça.
Ah ouais. Ok.
On en est là. Franchement, je pense que je vais l'oublier. Je pense que déjà, je l'ai déjà oublié.
On parle
oublié.
De quel film, déjà
Par contre, j'avoue le seul truc qui m'a étonné, c'est qu'il y avait l'acteur principal de Love, Victor dedans. Voilà.
D'accord.
Ah, comme quoi, on ne fait pas que des bons choix de carrière.
Il s'est perdu là-dedans.
Il l'a peut-être fait avant.
30 ans sinon rien, c'est le film dont je parlais. Et c'était, je pense, bien mieux par
d'accord.
rapport à la manière dont on parle. C'est à peu près le même délire. C'est une jeune fille de 13 ans qui, un jour, se réveille. Elle en a 30, mais dans son esprit, elle en a 13. Voilà. Damien.
Oui.
Tu as la parole.
Oui. Alors, moi, j'ai vu un film. C'était pas fait exprès. Ça s'appelle Axo Ridge. Tu ne tueras point en français. C'est sorti en 2016. C'est un peu vieux. Ça dure 131 minutes. Ce qui est relativement long. Ça fait quand même 2h15.
C'est une durée à peu près normale pour un blockbuster.
Ouais. Du coup, je regarde tellement peu de films que j'ai trouvé ça un peu long, à part au ciné. Et c'est dispo sur Amazon Prime et je crois que sur Apple TV aussi. Mais faut, c'est pas à la location. Enfin, faut payer la location. Voilà. C'est un film qui a été réalisé par Mel Gibson. Et dedans il y a Andrew Garfield. Alors il y a d'autres acteurs, mais bon, bah globalement on voit quand même beaucoup Andrew Garfield. Donc
c'est vrai.
J'ai mis que Andrew Garfield. Alors le résumé. Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Desmond, un jeune patriote américain, c'est Andrew Garfield, il s'est retrouvé confronté à un dilemme, comme n'importe lequel de ses compatriotes. Il voulait servir son pays, mais la violence était incompatible avec ses croyances et ses principes moraux. Il s'opposait ne serait-ce qu'à tenir une arme et refusait de tuer, d'autant plus que de tenir une arme. Il s'engage tout de même dans l'infanterie. Il est végétarien. Il s'engage tout de même dans l'infanterie comme médecin. Son refus d'infléchir ses convictions lui valent d'être rudement mené par ses camarades et sa hiérarchie, mais c'est armé de sa seule foi qu'il est entré dans l'enfer de la guerre pour devenir l'un des plus grands héros. Lors de la bataille d'Okinawa sur l'imprenable falaise de Maeda, il a réussi à sauver des dizaines de vies sous le feu de l'ennemi, ramenant en sûreté du champ de bataille un à un les soldats blessés. Alors du coup, moi j'avais vraiment pas prévu de regarder ce film, je suis pas trop film de guerre en général, et Mel Gibson encore moins.
Tu l'as lancé par hasard ?
Non, j'étais chez mes parents, c'est mon père qui a mis ça.
Oh,
d'habitude quand il met ce genre de film, je monte lire. Et
j'avais pas de livre aujourd'hui.
Si, j'avais des livres en plus. Mais vraiment, j'ai été un peu pris par le fait qu'il y ait Andrew Garfield et que ça démarre un peu comme plein de films américains de l'armée qui sont un peu marrants quand même. Les trucs où il y a des gros méchants sergents qui engueulent des jeunes arrivants. C'est un peu rigolo.
En mode full metal jacket, quoi.
Voilà, ouais. Exactement. Je me suis fait prendre. Et donc, oui, bah, en fait, l'histoire, elle est vraiment très, très prenante parce que... En mettant de côté juste la partie implication morale, c'est très très beau, c'est incroyablement beau. La réalisation, oui, est vraiment folle.
Je l'avais vu au cinéma, c'est pour ça que je me permets de réagir et d'acquiescer.
Ça devait être incroyable au cinéma. Mais du coup, le côté négatif de c'est incroyablement beau, c'est très réaliste aussi. Et il y a vraiment des morceaux de chair qui volent dans les airs.
Très brut, très brut et très violent.
Donc c'est crassou. Faut pas être trop non plus sensible, je pense.
Je fais une moue de « Ah, c'est dégoûtant ».
Bah franchement, à la fois, ça passe un peu vite, je sais pas trop. Ouais. C'est pas horrible, quoi, mais
moi,
c'est
moi, j'aurais
violent.
Pas regardé.
C'est pas Gore Gratos non plus, quoi.
Ouais, voilà,
c'est un peu la réalité de la
guerre. Gore Gratos, c'est qui ?
Oh là là. Est-ce que t'essaies de le remplacer ?
Oui, j'essaie. J'y arrive pas trop mal, je trouve.
Ok. Et donc voilà, n'hésitez pas à le regarder. Desmond, il est vraiment héroïque, c'est vraiment le mot qui reste. C'est une histoire vraie. C'est d'autant plus surprenant que, bon, franchement, la partie où il va marcher sous les bombes pendant une nuit entière et il en prend pas une sur la tête, elle paraît un peu... Voilà, mais bon, pourquoi pas. Et il sauve même des ennemis, parce que c'est contre les Japonais à Okinawa, et il va même sauver deux Japonais, ou tenter de les sauver, je sais plus. En tout cas, il les ramène tous un à un, dès qu'ils se rendent compte qu'ils sont vivants. Et c'est tout pour moi, hein.
Je me fais bien aimer le film aussi quand je l'avais vu au cinéma. Ça me donne envie de le revoir, je ne l'ai pas revu. Mmh. Et Mathilde, on te donne la parole pour le dernier film du mois de mai.
J'ai regardé En route pour l'avenir, qui se dit en anglais...
Along for the ride.
Qui est sorti le 6 mai 2022. Il fait 1h46, il est disponible sur Netflix et c'est une nouveauté.
C'est la seule nouveauté du mois.
Non, avec le film nul d'avant.
Ah ok, pardon.
Bubble était récent, mais peut-être pas...
Bubble était d'avril. En fait, il y a beaucoup de choses qui datent d'avril, en fait, qui est de fin avril.
La nouveauté pourrait prendre les deux derniers mois, mais bon.
La grossesse de Monsieur Yamada. C'était fin avril. Et il y avait Les 7 vies de Léa, c'était le 28 avril. Donc en vrai, c'est des nouveautés aussi. Oui, c'est un film réalisé par Sofia Alvarez avec Emma Passaro, Belmond Camley et Kate Bosworth. L'été avant son entrée à la fac, la sérieuse Oden découvre la vie d'ado insouciante qu'elle ignorait au fil d'aventures nocturnes avec son nouvel ami, le mystérieux Ellie. C'est l'adaptation du livre du même nom, écrit par Sarah Dessen, disponible en France aux éditions Lumen depuis le 5 mai 2022. Du coup, c'est une nouveauté aussi en livre.
Sorti la veille. Hein, c'est...
Oui, j'ai pas lu le roman, donc je ne peux pas vous dire si c'est une bonne adaptation. Mais en tout cas, le film était plutôt sympa. Il parle du fait de ne pas se sentir à sa place et du deuil principalement. La rencontre entre Oden et Ellie va les faire avancer et ils vont bien sûr tomber amoureux. C'est mignon. Et en vrai, voilà, c'est juste mignon. Enfin, je me rappelle surtout de la tarterie secrète cachée derrière la laverie.
Tarterie.
La tarterie.
C'est une machine
un magasin de tartes.
Un magasin de tartes.
La tarterie secrète cachée derrière la laverie. Oui. Alors clairement, c'est mon rêve dans la vie. Voilà, ouvrir une tarterie.
Secrète.
À côté, secrète derrière une laverie.
Ça devient vraiment spécifique.
Alors, après, si c'est réalisable.
Oui. Si vous voulez me faire un cadeau, bah voilà, vous savez que j'ai envie d'ouvrir une laverie, ouais, une tarterie derrière.
Mais si elle est secrète, personne ne sait qu'elle existe.
Bah oui,
si, mais ça peut être. Enfin voilà, vous savez, c'est ça que je veux faire. Laissez-moi.
Okay.
Et sinon.
Après, sinon, tu fais petit à petit et tu commences par faire la laverie.
Voilà, c'est ça. Et sinon, il y a aussi l'idée de la quête qu'ils entreprennent tous les deux, qui est une liste de trucs qu'Oden doit faire avant d'aller à la fac. Donc ça, c'était mignon, c'était sympa. Je me suis demandé... oui, voilà, c'était ça le truc important de ce film.
Ah, c'était là que t'allais...
Attention, je me réveille. Je me suis demandé si Netflix avait un partenariat avec Vans. Parce qu'en vrai, entre Airstopper et ce film... Bon, on dirait que Vans domine le monde, vraiment.
Bah, c'est peut-être juste qu'ils ont de l'argent pour faire des promos. Hein,
mais en vrai, ça me déplaît pas. Moi, ça me va. C'est cool. J'aime.
Netflix donne chaussures gratos, peut-être.
Si vous avez trop de chaussures Netflix...
Ils jouent tous leurs employés.
Si vous avez trop de chaussures Netflix, n'hésitez pas.
Non, des Vans.
Oui, de chaussures de Vans, oui, bien évidemment, des Vans. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous donner d'autre?
Vous avez compris, des chaussures Netflix. C'est des chaussures...
Non, des Vans. Oui. Si Netflix a trop de Vans,
oui,
veuillez nous les envoyer. Merci. Ça sera tout pour moi.
Eh bien, maintenant, on va écouter la bande-annonce du sujet du mois.
J'arrive pas à distinguer mes rêves de la réalité. Ça doit être pénible. Toutes ces voix dans ta tête. Il y a du désordre en toi. Accepte-le.
Bonjour et bienvenue à Toujours Debout.
J'ai des troubles du sommeil. J'arrive pas à distinguer mes rêves de la réalité.
Bonjour et bienvenue à Toujours. Bienvenue à Toujours.
Je crois que je deviens fou.
Heureusement que t'es là, toi. Tu sers vraiment à rien. Stevie.
C'est Steven. J'arrive pas à distinguer les rêves de la réalité.
Oh ah ! Merci, monsieur.
J'ai perdu une lentille de contact.
Ah, bon courage.
Merci. Oui ?
J'en reviens pas. T'es vivant ? Qu'est-ce qui t'arrive, Marc ?
Pourquoi vous m'appelez Marc ?
Ça doit être pénible. Toutes ces voix dans ta tête. Il y a du désordre en toi. Abandonne-toi au chaos.
C'était la bande-annonce de Moon Knight, la série américaine de Disney+. C'était sorti, c'est assez créé par Jeremy Slater.
C'était bizarre comme manière de dire. Série américaine, ça faisait genre, il y a une série américaine de Disney+.
qui travaillait sur l'Exorciste.
Ah. En 2006. Mais il n'y a que lui, j'avais cru voir qu'il y avait plusieurs noms.
Ah ben...
J.J. C'est Jeremy.
En tout cas, ça avait commencé à sortir le 30 mars 2022 à raison de un épisode par semaine. Il y en a eu 6 de 50 minutes. C'est avec Oscar Isaac, Ethan Hawke et May Kalamaoui. Et puis, bah, c'est évidemment l'adaptation du comics. Si vous voulez un peu de contexte, Marvel Studios avait commencé à parler de créer une série Moon Knight depuis 2006. Donc, même avant les films Iron Man et Hulk. Puis James Gunn, après aussi, a dit bon, j'avais proposé un film, mais bon, ça n'a pas trop marché. Et en fait, c'est pendant la D23 de 2019 que Marvel Studios a annoncé la série. La D23, si vous ne connaissez pas, c'est la convention Disney. Le résumé, c'est quand Steven Grant, un aimable vendeur de souvenirs, est en proie à des trous noirs et à la mémoire d'une autre vie, il s'aperçoit qu'il souffre de troubles de dissociatif de l'identité et que son corps est habité par le mercenaire Mark Spector.
Qui a un nom méchant.
C'est vrai qu'il a un nom de mercenaire. Lorsque les ennemis de Steven et Mark se rapprochent, ils doivent tous deux gérer leur identité complexe en se frayant un chemin dans l'univers terriblement mystérieux des dieux puissants de l'Égypte.
Ouais.
C'est vrai que c'était mystérieux.
C'était très mystérieux.
C'était en Égypte. C'était 50 minutes inside la tête de Mark.
Quoi ?
C'est une blague sur le début qui est vraiment arrivée trop tard. Voilà.
C'est pas le... Qui veut commencer à donner son avis ?
Moi, je veux bien.
Non, c'est moi qui
D'accord,
donne mon avis.
D'accord, vas-y.
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé les premiers épisodes. Je trouve que la mise en place de l'univers, elle marche très, très bien. Et le jeu d'acteur de... Bah, pas de Marc, hein, mais d'Oscar. De Oscar Isaac, elle est vraiment incroyable. Non, son jeu est vraiment incroyable. Je ne savais plus à quelle conjugaison j'étais. Et après, je trouve que ça part un peu en vrille sur certains trucs du genre. S'il a des pouvoirs pour faire bouger le ciel, mais comment est-ce qu'il peut rester secret comme il l'était ?
C'est vrai.
Et pourquoi il y a des gros hippopotames ? Enfin, il y a quand même des trucs qui me laissent un peu perplexe dans la série. Et des petits passages un peu bizarres aussi sur son enfance et tout, enfin, qu'elle a vraiment abusive. Et Mathilde me faisait remarquer, mais du coup, je vais peut-être la laisser en parler, qu'au niveau représentation de personnes ayant des troubles psychiques, c'est pas super. C'est pas une super manière de le montrer, quoi, globalement. Mm. Et puis après, moi, j'ai été repris un petit peu par la fin. Pour le côté. Il va y avoir un dénouement, on relie un petit peu tous les fils de l'histoire, et voilà. Et vraiment, Oscar Isaac, il est incroyable. Là-dedans. Mais il était déjà aussi incroyable quand il promenait un chat dans les États-Unis, un gros chat roux.
Oui, tout à fait. Je vois de quoi tu parles.
Moi, je vois pas.
Un film.
C'est un film
où il joue un musicien.
Attends, je vais te le
D'accord.
trouver.
Bon, c'est un autre film, c'est pas.
C'est clairement un autre film.
Je suis pas obligé d'avoir la ref.
Mais
c'est
il
pas,
a un gros
c'est
charou.
Pas grave, je l'ai pas.
Il s'appelle Inside Lewin Davis. Lewin Davis.
Je connais pas.
Et il fait de la guitare aussi, il chante.
Voilà. Il sait tout faire. Encore un gars relou qui sait tout faire. Mathilde, est-ce que tu as des choses à dire ?
Alors oui.
Elle a sorti son cahier.
Je galère trop parce que je ne sais pas où le mettre.
Récite-nous toi de poésie, Mathilde.
Non, ce n'est pas une poésie. Alors déjà, j'ai bien aimé le côté avec tous les dieux égyptiens et tout. C'est des choses qu'on ne voit pas régulièrement.
Bah, il y a quand même la momie.
Ouais, mais genre qui font pas aussi peur, tu vois.
Le retour de la momie.
Non, la mais momie des... avec Tom
Non, mais
Cruise.
Qui parle pas juste de momie, qui parle des dieux égyptiens, de leur mythologie, de comment ça fonctionne. Par exemple, quand tu, vas dans... quand tu vas dans l'au-delà, des règles, enfin tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était pas très abordé.
Bon
et j'étais
dans ce que t'as cité,
non.
Damien.
Et j'étais contente de découvrir tout ça parce que ça m'intéresse. Après, je suis d'accord avec le fait que Oscar Isaac est vraiment un super acteur. Il porte clairement la série sur ses épaules. Il est trop fort. J'aurais aimé comprendre un peu à quoi ça se raccroche dans l'univers Marvel. Est-ce que c'est un truc totalement nouveau et qui se raccroche à rien, ou est-ce qu'ils vont après raccrocher ça à autre chose ? Ça m'intéresse.
Ah ouais ?
Mais au final,
Pourtant,
je ne sais pas.
Pourtant, ça vit bien tout seul.
Enfin, oui, mais rien ne vit jamais tout seul chez Marvel.
Ok.
Vraiment. Le ton.
Méprisant, là.
Je préférais qu'on me prévienne maintenant plutôt qu'on me dise à un moment donné. Finalement, Spider-Man était dans le coin, tu vois.
Mais est-ce
qu'ils sont pas
un peu en train d'introduire lui? Il y a le Black Knight aussi dans The Eternals. Comme ça qu'il s'appelait le film.
Alors, The Eternal, j'ai totalement oublié le film. Je l'ai vu, mais je l'ai zappé.
Jon Snow, là ?
Oui, Jon Snow. Ouais.
Ouais, c'est peut-être.
Je crois qu'ils ont introduit quelqu'un avec son épée, là.
Oui. Mais voilà, par exemple, ce perso, je le verrais bien dans l'univers de celui-ci. Tu vois,
apparemment, il sera plutôt avec Blade.
Merde.
C'est qui ?
Le chasseur de vampires afro-américain.
Ah, ok. Bon, passons. Donc. Comment ça se présente dans l'univers Marvel, ça on l'a dit. J'aime pas trop, enfin c'est mon avis personnel qui n'engendre que moi, mais moi par contre j'aime pas trop le côté combat à main nue, au couteau, enfin toute cette violence.
Ah ouais, pourtant c'est bien fait quoi.
Ouais, c'est super bien fait, mais justement moi c'est pas le genre de choses que j'apprécie.
Alors qu'est-ce que t'as pensé de la scène d'ouverture dans ce cas ?
J'ai pas trop apprécié.
Voilà. Moi, je la trouve vraiment crispante, quoi. Le truc où il casse du verre, il met sous ses pieds et il marche.
Et il marche. Vraiment, c'est... Ouais, non, c'est... Et puis oui, on arrive au point important de cette série et la grosse thématique, la principale même, parce que j'ai l'impression qu'au final ces histoires de dieux d'Égypte, de super-héros passent un peu après. Oui. Moi j'ai l'impression que le thème de cette série avant tout c'est la maladie mentale et donc entre autres la schizophrénie, car Mark Spector qui était clairement victime de violences physique du côté de par sa mère, a créé Steven Grant pour se protéger de ça. Donc Steven Grant, lui, n'avait aucune idée de que sa mère le tapait. Il pensait que sa mère était gentille et tout ça et tout ça. Et la question est-ce que cette maladie mentale est bien traitée ? Alors de mon point de vue, pas ouf. Mais après, bien évidemment, moi, j'ai pas de maladie mentale. Hein, donc il faudrait peut-être se référer à des personnes qui sont plus professionnelles que moi. Hein. Mais j'aurais tendance à dire que dans cette série, on nous montre un peu la maladie mentale comme un super pouvoir. Clairement, quand on est schizophrène, on ne peut pas faire comme ils font tout le temps dans la série, se parler. Enfin, les deux personnalités se parlent, ça n'existe pas. Hein. C'est...
Ou se répondre. Ou swiper comme ça.
Ou swiper à l'infini comme ils veulent.
Mais oui, enfin,
bien contre moi, quoi.
Ça, est-ce que ça pourrait être expliqué un jour ? Est-ce que c'est parce que du coup, peut-être que le pouvoir du dieu fait que ça change un peu leur maladie ? Parce qu'apparemment, ils ne le faisaient pas avant. Ils le font peut-être à cause du pouvoir de...
Alors je crois qu'ils expliquent du fait qu'ils sont l'avatar. Je crois que Marc, il explique qu'à un moment donné, ça part en vrille. Et je crois qu'il explique pourquoi, mais je ne me souviens plus. C'est vers la fin. Mais
moi, j'aurais tendance à dire que si, c'est parce qu'ils sont l'avatar du dieu. Du coup, ça leur donne un peu plus de pouvoir. Enfin,
c'était pas ça dans l'explication.
Mais voilà. Et il y a un moment où ça va plus loin, où en gros, il dit même... où Marc dit à Steve « C'est toi mon super pouvoir ».
Alors j'y ai réfléchi et en fait je me dis c'est rigolo parce que la série fait vraiment l'inverse. Genre Steve il est un peu banal et un peu nul on va dire. Et Marc il est cool tu vois. Enfin il est cool. En tout cas il sait tuer des gens.
Oui mais à la fin Steven aussi donc...
Ah oui c'est vrai. Tu vois.
Mais après Steven c'est sa caution morale aussi.
Oui c'est ça. En fait, ce qu'il raconte dans la série, c'est vraiment t'as le mec qui se fait taper, qui se fait battre par sa mère, qui donc intériorise tout ça et devient violent en grandissant et essaie de s'en sortir, de protéger les gens qu'il aime et tout ça, mais bon, bah ça part en cacahuète. Et puis t'as Steven qui, oui, est sa conscience morale, qui lui n'a jamais été victime de violence et du coup est resté naïf et et voit le monde d'une toute autre façon. Un bon point sur cette héroïne égyptienne que j'ai adorée.
Oui, elle est cool.
J'adore le moment où la petite fille dans la série lui dit « Tu es une super héroïne égyptienne, mais d'un air avec des étoiles dans les yeux ».
En fait, ils introduisaient pas Moon Knight, ils introduisaient la meuf. Bah, peut-être, du coup.
Peut-être, mais je trouve qu'en tout cas, ça fonctionne super bien. Et le final m'a pas spécialement surpris parce que au final c'est logique par rapport à ce il y a des indices dans la série mais même par rapport à ce qu'on connaît à ce que je connaissais de la maladie dont souffre Mark Spector, ça paraissait logique en fait que il est, enfin que voilà.
Ok, et en fait vous avez dit à peu près des choses que j'allais dire.
Désolé.
Bah non, non. Moi, d'habitude, je fais pas trop ça, mais là, comme la série m'a un peu laissé indifférent, bah, je suis parti sur un j'ai aimé, j'ai pas aimé.
T'aurais pu faire une tier list.
J'en ai jamais fait. Déjà, j'ai aimé que on parle d'un personnage méconnu. Ça, ça fait plaisir de découvrir des nouveaux personnages issus du comics. Alors. Je dis que c'est plutôt cool d'avoir un super-héros dont on traite surtout la psychologie.
C'est quand même pas la première fois que c'est fait. Enfin, j'ai pas l'impression.
Dans un Marvel, en tout cas.
Moi, je pense, on a déjà parlé, mais je pense à Légion principalement.
J'ai
qui
jamais
parle
vu.
De ça. Il y avait aussi le film que t'avais vu qui se passait dans un hôpital psychiatrique avec des ados.
Ah, ça
pouvoirs.
Parle clairement pas de ça.
Non, ça parlait pas de ça.
Non.
Ok. Et ouais, mais.
On parlait des nouveaux mutants.
Je trouve que Légion parle vraiment beaucoup de ça quand même.
Ah, enfin, ça en parlait un peu, mais c'était pas. C'était vrai. Ouais, bon. C'était un peu fait. Non, ça. Ouais, bah bon, bah, voilà. Et puis c'est pas mal de parler de maladie mentale dans une série blockbuster, mais comme on l'a dit, c'est vraiment pas super bien fait. Donc est-ce que c'est bien de en parler de manière pas très bien, ou alors c'est bien de ne pas en parler parce que si on le fait, c'est mal fait. J'ai pas de réponse à cette question. Vous l'avez dit, Oscar Isaac, il est remarquable, bien sûr. La déconstruction scénaristique aussi, j'aime bien, parce que c'est toujours mieux que quand on suit un fleuve qui découle tranquillement. Là, au moins, il faut un peu réfléchir et suivre. Le twist qu'on voit vraiment pas venir à l'asile, quand d'un coup, on découvre un film tout éclaté d'aventure et qu'on comprend qu'on est dans un asile, on fait « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ça, c'était vraiment un truc plutôt chouette que, en tout cas, Mathilde Aimant n'a pas du tout vu venir. Les transitions entre Steven et Marc, dans la mise en scène, je parle, souvent elles sont bien faites, où il y a des espèces de cuts très nerveux et paf, d'un coup, on arrive à un nouvel endroit où on comprend qu'il s'est passé des choses. J'aime bien comment ça rend. J'ai beaucoup aimé l'épisode aventure en mode Indiana Jones, Tomb Raider, Uncharted, qui est en Égypte.
Moi, j'ai pas du tout aimé. C'est pas mon genre. C'est pas du tout le genre de truc que j'apprécie regarder, en fait.
Non, mais même juste quand ils arrivent en Égypte et tout, c'est cool.
Ah oui, c'est cool, mais après, moi, j'ai pas.
Alors que le tournage n'a pas mis un pied en Égypte.
Ah ouais?
Pas un pied.
Comme d'hab, non.
Comme d'hab.
Bien joué, bien joué.
Mais après, voilà, comme j'ai noté aussi, le fait que ça se passe en Égypte, bah, c'est cool parce que c'est des paysages qu'on voit pas beaucoup dans le MCU. Donc, ça, c'est bien. Alors, dans ce que j'ai pas aimé. C'est une série qui est vraiment trop bavarde, beaucoup trop bavarde. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait beaucoup de bagarres, mais
il y a beaucoup de bagarres quand même.
Il y a des épisodes où il y en a même pas.
Oh bon,
mais c'est juste que c'est trop blabla quoi. Des fois, peut-être aller un
le
peu.
Le méchant, il parle vraiment beaucoup.
Ouais, hein. Voilà, bah, c'est
il,
lui surtout.
Il s'entend parler, enfin, il s'écoute de ouf.
Aller un peu des fois à l'essentiel et quitte à enlever un épisode, mais bon, au moins ça aurait évité quelques longueurs. Des fois, c'est un peu relou parce que le rythme il est aussi inégal, il y a des ventres mous terribles et la fin elle est un peu hachée pour que ça aille vite. J'ai pas trop aimé le traitement de la mort de son frère, c'est vu et revu un peu qui est l'élément déclencheur de sa maladie mentale.
C'est pas ça l'élément déclencheur.
Oui, c'est aussi ce que sa mère lui fait. Mais
moi je pense que c'est clairement le...
Mais il y a un peu le premier gap, c'est le premier truc tu vois où il dit je suis pas une bonne personne parce que... En tout cas, c'est du vu et du revu. Je trouve que de partir de ce plot-là pour... je pense qu'il y a peut-être... Enfin non, je vais rien dire parce que j'y connais rien. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, je trouve que c'est trop vu et trop revu. Ça fait un peu astuce de scénariste.
Bon, il faut qu'il devienne un peu... il faut qu'il ait une seconde personnalité. Comment on fait ? Bah, son frère, il peut mourir.
Mais je pense que c'est pas ça qui le déclenche. C'est vraiment le fait de sa mère qui le tape. Peut-être qu'on
pouvait juste avoir une mère violente, ça peut arriver aussi.
C'est vrai.
Après là, ça fait justifier. Enfin bon, bref, je trouvais que c'était vu et revu. Un truc que vous avez pas dit, c'est qu'il y a aucun design qui m'a vraiment convaincu. Les costumes de Moon Knight, ils sont trop en CGI.
J'ai l'impression
qu'il n'y en a pas un seul qui est vrai.
J'avais l'impression que quand c'était Steven qui avait son costume, j'avais l'impression de voir une espèce de copie mal faite de Deadpool.
Oui, c'est vrai aussi. Le fait
dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, c'était très bizarre.
C'est vrai.
En tout cas, en VF, ça donnait vraiment cette impression.
Khonshu, il est très moche.
Ouais. Mais je pense que c'est fait exprès. Enfin,
je sais pas. Enfin, au moins, le fait lui a un bec qui parle, quoi. On dirait que c'était fait.
Ah, mais là, je pense qu'il parle dans sa tête. Hein.
Ouais,
des fois, il parle à d'autres dieux ou à d'autres. Enfin,
mais
ils
parlent dans leur tête.
Dans leur tête.
Okay.
Tu parles dans ma tête.
Et puis, les autres animaux déesses, je trouvais qu'ils faisaient un peu fake.
Quoi, hippopotame.
Bah, l'hippopotame, elle fait fake. Le design est plutôt intéressant, comme la alligator, là, je sais plus son nom.
Ouais.
Mais ça fait trop fake. C'est les effets spéciaux sont pas beaux.
Alors que quand ils deviennent très très grands, ça devient beaucoup plus crédible.
C'est nimp. D'ailleurs, je me suis dit ça, cette réflexion, quand tu dis les trucs qui vont pas, ces dieux sont nuls. Parce que quand l'autre il leur dit.
Après là, on critique la mythologie égyptienne du coup.
Mais quand l'autre il leur dit. Mais machin là, il fait. Enfin, le méchant est là, il est devant eux. Et voilà, les gars sont pas capables de savoir ce que le type fait. Genre, c'est des dieux, ils contrôlent tout.
Oui, c'est vrai. Ah oui, nul comme ça.
Mais ils n'arrivent pas à se rendre compte que ce mec les entube. Enfin, je trouve ça ouf.
Non, c'est vrai qu'on disait, franchement, des crocodiles.
Non, je pensais que tu parlais de ça. Ah oui, oui, non, c'est vrai qu'en tant que personnage, ils sont cons.
Non, je ne remets pas en cause la mythologie égyptienne, voyons.
Mais par contre, vous avez parlé d'Avatar, mais je ne l'avais pas noté, mais ça me fait penser à ça. Le principe d'Avatar, je le trouve un peu éclaté aussi.
Je trouve ça montre que les dieux n'ont pas. Doivent être incarnés par des humains sur Terre pour exister.
Ouais, mais quand tu vois dans le temple, t'as random banquier qui arrive alors que c'est censé être le dieu le plus puissant. Enfin, on pouvait pas avoir des vrais dieux, tu vois. Ou tu vois, j'arrive à comprendre
des
quand
avatars
c'est
un peu plus stylé.
Ouais, voilà, j'arrive à que tout le monde ait un costume éventuellement aussi. Mais en fait, j'arrive à comprendre que Ronku, il est
Khonshu,
pas Ronku du tout.
Oups.
Ils ont pas de costume parce que c'est pas des dieux de combat, c'est des dieux de justice.
Oui, bah ils ont qu'à avoir des costumes de juge.
L'hippopotame, c'est un dieu de justice et elle a un costume.
Voilà,
à
ce moment-là, là où je me suis aussi posé la question.
D'ailleurs, elle le dit, j'ai réfléchi à ton costume.
Voilà, je me suis aussi posé cette question. Je me suis dit, si eux c'est de la justice, d'accord, ils combattent pas, donc ils ont pas de costume. Mais pourquoi elle a un costume? Et en plus, c'est pas un costume d'hippopotame. Hein. C'est un costume avec des ailes trop cool.
Après, Moon Knight, c'est pas un costume d'oiseau.
Bah, ils volent.
Ouais, mais il y a des rapports avec la lune.
Ils volent, c'est vrai. Non, mais en gros,
c'est
de la nuit.
Bah,
c'est le dieu de la nuit, oui.
Le dieu de la nuit ou des oiseaux de nuit, c'est ça qu'il dit?
Oui, c'est ça.
Protège les oiseaux de nuit.
Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que Khonshu, qu'il est une sorte d'homme de main ou un truc comme ça, ça peut marcher. Si c'est un peu le
combattant des dieux.
Ouais, ou la faucheuse un peu de la mythologie égyptienne, ça, tu vois, ça le fait. Mais que les dieux et les déesses et des avatars, je fais bon. Ok. Et surtout, en fait, visuellement, il y avait du coup trois personnes en civil dans un temple égyptien. Ça faisait vraiment trop série NBC éclatée qui a pas d'argent. On aurait dit Charmed. Voilà, c'est ça. Où t'as le décor d'un temple, mais t'as pas les moyens d'avoir des gens en costume. Donc du coup, tu mets des gens normaux et ça fait cheap. J'ai pas trop aimé ça. Et enfin. Vous avez demandé où est-ce que ça se passe par rapport au MCU. Et ben moi, je trouve que on a eu les pierres de l'infini. Après, on nous a dit il y a les célestes. Après, on nous a dit il y a la TVA de Loki. Maintenant, on sait qu'il y a le multivers.
La TVA.
La TVA, oui. Je sais plus le nom, mais la TVA, il s'est regardé en VO. Vraiment, j'ai juste dit
c'est
TVA.
Le truc du temps.
Oui, mais c'est juste que moi j'étais sur la taxe, sur la valeur ajoutée.
c'est le truc de protection du temps.
J'avoue, ça fait beaucoup.
Et ça commence à faire beaucoup de trucs. Maintenant, y a des dieux égyptiens. Donc
et
ça,
bientôt,
ça
il y aura des vampires, du coup, vu qu'il y a un chasseur de vampires.
À la fin,
aussi.
Ils vont dire que c'était un jeu vidéo depuis le début.
Ouais, mais en fait, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait. D'une part, quand on parle de dieux, dans Thor, il y avait des dieux, mais c'était très clair que c'était des extraterrestres. à forme humaine qui étaient venus sur Terre et les humains les ont pris pour des dieux. Voilà. Là, on nous dit clairement, on nous dit pas ça, on nous fait, en fait, s'il y a des dieux maintenant en plus.
Du coup, on va voir Jésus bientôt.
Mais pourquoi pas ? Il y a des divinités et.
Les dieux égyptiens, ils sont quand même un peu plus classe que Jésus. Désolé, c'est un crocodile.
Donc en fait, moi, je trouve que ça commence vers beaucoup trop de mythologie pour que ça ne se contredise pas. C'est vraiment trop complexe, à mon sens.
Ils avaient déjà dû justifier un petit peu quand les Éternels sont sortis, le fait de dire pourquoi est-ce qu'ils sont pas intervenus, parce qu'en fait, ils étaient déjà là, tu vois.
Ouais, non, les Éternels, moi, j'ai...
Éternels, c'était trop.
C'était déjà trop.
On voit bien, en fait, je trouve que dans Doctor Strange, bon, là, on divague un peu, mais dans Doctor Strange, on voyait bien qu'il y avait déjà trop d'éléments et que le film savait plus trop, enfin n'arrivait pas à tout relier. Et là, effectivement, t'as une série qui est complètement à part. Et si, est-ce que j'ai vraiment envie de la regarder parce qu'elle m'a pas emballé plus que ça si elle continue d'être tout le temps à part? Ou alors comment ça va être relié si
Après, je peux comprendre que dans un univers où il y a des super héros, où la magie existe, où les extraterrestres existent, pourquoi est-ce que les dieux égyptiens n'existeraient pas? Pourquoi est-ce que les vampires? En fait, c'est juste tout existe.
Oui, non, mais d'accord.
Tout est magique. En fait. À partir d'un moment, en fait, la vraie population humaine, ça va être 3% de la population et les autres, ils vont tous être chelous.
Ouais, mais en fait,
X-Men,
j'ai aucun.
Les X-Men, on les a pas vus, mais voilà.
J'ai aucun problème avec ça. C'est juste que au départ, on nous a dit.
My Hero Academia.
Ça commence par un mec qui construit une armure très 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 réaliste. Et après, c'était un scientifique qui est devenu un peu zinzin. Et en fait, on a fait que nous parler de choses très réalistes de notre quotidien. Et là, on nous balance beaucoup trop de choses qui sont infaisables. Et je trouve qu'on se perd un peu. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il fallait rester dans ce truc-là. J'ai aucun problème à...
Est-ce que tu es en train de dire que c'était mieux avant ?
Totalement. Mais non, en fait, le truc, c'est que je trouve que ça s'éparpille. Et autant... Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que déjà dans les comics, ça ne marche pas toujours. Que dans les comics, t'es obligé de sacrifier, de regarder des trucs, enfin de lire des trucs parce que tu peux pas tout suivre. Si en plus maintenant les films commencent à faire ça, c'est dommage. Moi j'aimais bien quand on pouvait tout suivre de manière feuilletonnante. Et je trouve ça un peu dommage d'être obligé de.
C'est un peu pour
ça. Si ça prend cette forme-là.
C'est un peu pour ça que moi personnellement, si on n'avait pas mis cette série en sujet du mois, je l'aurais pas regardée par exemple, parce qu'elle m'attirait pas. Enfin, je voyais pas son intérêt. Après, c'est sûr que il y a plein de trucs. Rien que pour Oscar Isaac, cette série, elle est vraiment cool. Mais à un moment, est-ce que tu regardes une série juste pour l'acteur, quoi? Enfin, si on est obligé d'en arriver là, quoi.
Vous avez regardé Younger?
Non, on pensait que ça allait être bien.
Mais c'est pas à cause des acteurs.
Oui, mais moi je pensais que
c'était parce que c'était la dernière saison de la série, donc on avait regardé les 5 autres, quoi.
Et puis on voulait savoir si elle allait choisir Josh.
Ouais, on voulait savoir.
Pour conclure, en fait, c'est ce que t'as dit, c'est qu'on regarde surtout pour Oscar Isaac et qui porte la série sur ses épaules, mais bon, ça reste très oubliable. Dans l'ensemble.
Moi, je suis pas sûre que je regarderai la suite, s'il y a une suite. Parce qu'en plus, vu comment ça se finit, on dirait qu'on va repartir dans un engrenage à peu près similaire, en fait. Je vois pas comment ça va... Oui, ça va repartir, quoi, dans un engrenage similaire. L'histoire se répète, on a l'impression, en fait.
Moi, du coup, j'avais lu un comics déjà, et c'était aucune des deux personnalités là. Et il s'échappait d'un asile et il se baladait dans New York.
Ah oui, donc un truc encore totalement... ça dépend de où, à qui il se rattache, quoi. Faut voir.
Voilà pour Moon Knight. Donc on n'a pas été trop emballés, malheureusement, c'est comme ça.
T'enlèves Oscar Isaac et tu mets un acteur un peu plus lambda et qui fait un peu moins...
Oui.
Vraiment, il reste plus grand-chose, quoi.
Ouais, c'est clair. Sûr.
C'est clair. On va passer maintenant aux recommandations et aux nouveautés du mois de juin. Eh bien Mathilde, c'est à toi qu'on donne le bâton de la parole. Combien de temps va tenir cette blague?
Les recommandations de juin, les séries qui continuent. Alors on a Psy X Family sur Crunchyroll.
C'est Spy.
Spy, pourquoi je dis toujours...
Je sais pas, il y a PSY, tu veux pas le dire dans le bon ordre.
Enfin, ça marche pas. Spy X Family.
T'es pas obligé de dire le X, je crois d'ailleurs. Parce que le X veut vraiment juste dire c'est un ensemble.
D'accord. Il y a aussi Dance Dance Dancer et aussi Shikomori n'est pas juste mignonne, qui sont également sur Crunchyroll et qui sont toujours en diffusion. Un épisode de par semaine, tous les dimanches, il me semble. C'est ça ? Tous les dimanches ?
C'est ça pour Spy Family, en tout cas, ouais.
Bah, je crois que c'est ça pour les autres. Sinon, il y a Scam France, la saison 10 sur France TV / elle doit être diffusée sur France 2.
Est-ce que c'est un rapport avec Scam ?
C'est pas diffusé à la télé du tout.
Ah, c'est pas du tout diffusé
à
la télé.
C'est que du numérique, j'allais dire, mais ça veut rien dire.
Bah, c'est aussi disponible sur Salto. Est-ce que c'est un rapport avec Scam ? Oui, en fait, c'est l'adaptation française de la série Scam.
Et vous avez regardé la version belge ?
Non, nous, on a regardé la version française.
Scam France, en fait, vous avez regardé Scam France.
Oui, nous, on a regardé Scam France. J'ai regardé Scam France. Ok, on a regardé la version franco-belge. Et à la base...
Il y a Scam Belgique ?
Non, bah non, franco-belge, on a dit.
Oui, parce que là, il y a Scam France.
Bah c'est... oui, mais ils ont appelé ça Scam France.
Ça s'appelle Scam France, mais c'est l'adaptation franco-belge.
Oh là là, ça tourne en rond. Visiteurs sur MyCanal, c'est quoi le... Tout est sorti, du coup ?
Bah oui, à partir d'aujourd'hui, tout est sorti, effectivement.
Alors, ça ne continue pas ?
Bah, on peut dire que ça continue, bah vu non, que ça on prend un peu aujourd'hui. Voilà.
Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Ça, c'est déjà sorti, ça ?
Bah non, c'est
ça sort le 27, mais...
Pourquoi il y a marqué ça continue ?
Parce que, ça va continuer pendant le mois de juin, voyons.
Mais c'est pas ça qu'on fait. Normalement, on fait la date de sortie, on dit un épisode par semaine. Ça continue, c'est les choses qui ont...
Le 27 mai, c'est trop tard.
Ah, le 27 mai.
Je sais encore à peu près remplir ce truc.
J'allais l'enlever aussi. Donc, Obi-Wan Kenobi commence le 27 mai. À la date d'aujourd'hui, nous sommes le 25 mai. C'est pour ça que j'étais un peu barbare, un peu perplexe. Et donc, un épisode par semaine pendant quelques semaines.
Oh bah c'est précis. C'est pas mal.
Je crois qu'il y a 5 épisodes.
Ok.
Et ça va être sur 3-4 semaines. Mini,
le flambeau.
Le flambeau.
Plus rien.
Le flambeau sur MyCanal. C'est quoi le truc de diffusion ?
Alors, je pense que ça va être comme Visitors, donc 3 épisodes tous les mercredis, a priori. D'accord. En tout cas, là, c'était 3 épisodes. Mais Visitors, ils ont fait un truc bizarre où ils ont mis 1, puis 2, puis après, ils ont basculé sur 3.
C'est une marelle, en fait.
Suite numérique, il faut essayer de deviner un truc.
En tout cas, ça a commencé et ça finira.
Waouh !
C'est fantastique.
Bon. Les nouveautés.
Vous me faites chier.
J'avoue que je commence à être fatiguée. Les nouveautés, le jeudi 2 juin, il y aura The Orville saison 3.
Oui.
Alors, la saison 1 et la saison 2 sont disponibles sur Disney+.
Et sur Canal.
Et sur Canal. Mais je ne sais pas si ça va être diffusé hebdomadairement sur Disney+, en France, parce que c'est censé être disponible sur Ulule aux États-Unis.
En France, c'était diffusé sur Warner TV.
Bah,
donc c'est dans le bouquet MyCanal.
Donc ça sera pas sur Disney+ tout de suite en fait.
J'imagine.
Mais ça fait partie de Warner Bros. Ah oui, c'est ce que tu dis.
Warner TV.
Ah, exact. Donc je ne sais pas où est-ce que vous pourrez voir The Orville à part sur MyCanal. Là, je sais pas. Vendredi 3 juin. The Boys saison 3 sur Prime Video. Je pense que ça va sortir d'un seul coup l'intégrale.
Les garçons, c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas traduit.
On n'a pas vu la saison 2, mais en vrai, j'aimerais bien reprendre. J'avais vraiment kiffé la saison 1. Mercredi 8 juin, Miss Marvel saison 1 sur Disney+. Épisode hebdomadaire aussi, un épisode par semaine. J'ai trop hâte de voir cette série, elle a l'air trop bien. 9 juin, Nouvelle École, c'est disponible sur Netflix. C'est une compétition de rap français, en mode un peu télé-réalité.
C'est du clash.
Je sais pas si ça vous dit, mais voilà, c'est disponible.
Non, ça a l'air bien.
Mercredi 15 juin, Love Victor saison 3 sur Disney+. Encore une diffusion hebdomadaire. J'en peux plus des diffusions hebdomadaires.
Moi, je préfère.
En sachant que Love Victor, c'est des épisodes de 20 minutes, je regarderai quand tout sera sorti. Je ne peux pas m'infliger ça. Vraiment pas. Vendredi 17 juin. L'été où je suis devenue jolie, c'est une adaptation de roman young adulte et ça sera disponible sur Prime Video, ça sera un film. Le même jour, il y a la sortie de Spider-Head, c'est un film avec Chris Hemsworth sur Netflix. Alors, j'ai regardé la bande-annonce. C'est un film où Chris Hemsworth, j'arrive pas à dire son nom,
se fait mordre par une araignée radioactive.
Non, joue un... En fait, il est un peu un médecin. Et en fait, il demande à des prisonniers d'aller dans sa prison un peu spéciale où il leur fait un peu des expériences dessus. Ouais, c'est un peu chelou, ouais, dit comme ça, chelou. Mais ça ressemble à ça. Mardi 21 juin, il y aura Motherland for Salem, saison 3.
C'est pas le truc que tu avais regardé.
Si, les saisons 1 et 2 sont disponibles sur Prime Video, mais je ne sais pas si ça, la saison 3 sortira sur Prime Video directement encore. Donc, histoire à suivre. En tout cas, Motherland for Salem est une de mes séries préférées et la saison 3 sera la dernière. Regardez cette série si vous ne l'avez pas vue. Mercredi 22 juin, nous aurons deux sorties. Umbrella Academy, saison 3 sur Netflix. Donc, il faut que je rattrape la saison 2. Ouf, il y a beaucoup de choses à voir.
Let's go.
Et Love and Gelato, qui est l'adaptation d'un... C'est un film adapté d'un roman young adulte que j'ai lu. Donc, je pourrais vous en parler. Et ça sera également sur Netflix. Vendredi 24 juin, il y aura Chloé, saison 1 sur Prime Video. C'est une série qui m'a un peu fait penser à un film qu'on avait vu, Emilien, au cinéma. Avec... je sais plus comment ça s'appelait.
Ça va m'aider.
Tu sais, où c'est un film où il y a quelqu'un qui se fait... Une jeune femme qui se fait tuer. Et du coup, son amie essaie de la venger. Et résultat, elle se fait aussi tuer. Non, elle s'était fait violer sa...
Non.
Elle s'était fait violer sa copine.
On avait un truc comme ça au cinéma.
Mais oui, elle avait des ongles de toutes les couleurs.
Ah!
Alors vraiment, le fait qu'elle soit violée, non. Par contre, ah oui, les ongles.
Ça va me revenir.
On sent les centres d'intérêt.
Ça va me revenir. Ah.
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 Et ben en fait, cette série, c'est un peu le... Enfin, je dirais pas que c'est le même genre, mais en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Chloé et qui apparemment, dans la bande-annonce, on nous dit qu'elle se suicide. Et une de ses amies... part du principe que c'est pas vraiment ce qui s'est passé et cherche à savoir la vérité.
D'accord. C'est un pitch assez courant finalement.
C'est plutôt assez courant. Non ? Ça vient ? Pas ?
Promising Young Woman.
C'est ça. Et ben ça m'a la bande annonce de Chloé m'a un peu fait penser à ça.
D'accord.
Dimanche 26 juin, il y aura la sortie de Westworld saison 4 sur OCS.
C'est trop long.
moi, j'aimerais bien reprendre, mais après, je peux reprendre toute seule. Ça ne me gêne pas. Mercredi 29 juin, Damien, il y aura Baymax saison 1 sur Disney+.
Ah ouais, c'est cool.
C'est tout.
Mais non, mais j'aime bien Baymax.
Oh là là là.
C'est, il aime plus que bien.
C'est un très bon film.
Et on finit.
Ça s'appelle pas Baymax,
on films. Finit ses recommandations par une question très intéressante qu'on m'a posée sur Twitch parce que je stream maintenant. Voilà, pour information.
Bravo.
Alors voilà, un de mes viewers que j'appellerai ici Yoshi, il se reconnaîtra, nous a dit qu'en fait lui, il n'avait pas les moyens d'avoir toutes les plateformes, d'être abonné à toutes les plateformes, et il nous a demandé quelles plateformes. Quelle plateforme on lui conseillait d'avoir au mois de juin. Alors, on va faire un petit tour de table. Damien.
Moi, j'aurais limite dit MyCanal parce que ça fait Disney+, plus d'autres trucs.
Ouais, mais c'est peut-être le plus cher, non ?
T'es engagé ou pas à faire ça ? Parce que, en gros, dans la manière dont ce cher Yoshixu avait
j'ai
posé la question.
Combien ça coûte.
C'était en gros, n'ayant c'était pas que, les en moyens gros, lui, de payer jongle, tous les services.
Il jongle entre les plateformes. Donc si t'es engagé, ça marche pas.
Comment ça si t'es engagé
si tu dis aller, t'es obligé de faire sur un an, c'est hyper relou.
Ah, mais je sais pas. Attends,
ça veut dire qu'il gratte des codes Canal.
Ça veut dire que c'est pas lui qui paye. Clairement.
Ouais, ça coûte 20€ par mois et c'est un engagement de 24 mois.
Ah
oui, donc non.
Et ça augmente au bout de 12.
Alors,
il y a un mois pour essayer. Quand
ok,
même.
Dis autre chose. Par contre, voilà, Yoshi, tu peux essayer les plateformes gratuitement si tu ne l'as pas encore fait. Pense-y, c'est le bon plan. Non, tu.
Moi, je dirais.
Je sais pas, ça dépend ce qu'il a déjà vu aussi.
À titre perso, au vu des nouveautés, je dirais Netflix parce que il y a quand même Stranger Things qui est arrivé, et puis il y a, Umbrella Academy.
Je suis étonnée parce que je pensais que tu allais dire Disney+.
Si j'écoute mes goûts perso, je dis clairement Disney+, parce que il y a, Obi-Wan Kenobi, il y a Miss Marvel qui doit être vachement bien, mais après il y a plus de choses sur Netflix, ce mois-ci.
Sinon, je pense qu'on peut juste dire tout sauf Amazon et non à Jeff Bezos. Mais
Oui, on peut dire ça, en effet. Moi, franchement, j'aurais dit Disney+, parce que je trouve que Miss Marvel, c'est plutôt cool. En plus, c'est, comme tu dis, c'est que des sorties hebdomadaires. Après, c'est le seul problème, c'est que du coup, comme Netflix sort pas tout d'un seul coup, est-ce qu'en un mois, tu peux voir toute ta série? Je suis pas sûre.
Tout Obi-Wan Kenobi, je pense déjà.
Large.
Mais
en fait, on n'a pas du tout répondu à la question. Moi, je dis Disney+.
Moi, je dis Netflix.
Ouais, vu toutes les sorties, je dirais Netflix aussi. Au final.
Voilà, donc Netflix gagne haut la main ce petit combat pour cette fois-ci. Mais est-ce que Netflix gagnera la guerre?
On avait décidé un peu d'un commun accord que le mois prochain, il n'y aurait pas de sujet du mois, vu la densité des choses dont on doit vous parler. Ça reviendrait à faire plein de sujets du mois, puisqu'on va vous parler notamment de Stranger Things, de Obi-Wan Kenobi,
de Miss Marvel.
Ce sera pas fini. Oh, peut-être que ce sera fini, on ne sait pas trop.
De Scam,
De Baymax.
On va vous parler de plein de choses. Vaut mieux que peut-être le flambeau aussi, sans doute aussi de Visitors. Enfin voilà, on va vous parler plein de trucs, donc ce sera hyper cool, mais pas de sujet du mois précisément. Et donc on peut conclure. Ainsi se termine ce 19e épisode du récap. C'est déjà le 19e quand même. Ça passe vite.
Le temps.
Le temps file. C'est ça que t'as fait dire.
Oui.
C'était un mois de coups de cœur. On espère que cet épisode aura été un coup de cœur. Comme d'habitude.
Un accent bizarre.
Comme d'habitude, vous pouvez mettre plein d'étoiles pour nous aider à être mieux référencés. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux Insta et Twitter et surtout sur notre blog plaid.fr. Aussi sur le Twitch de Mathilde, à présent. Madame est une streameuse.
Elle n'a pas encore fait d'agenda.
Si, un petit peu.
C'est vrai.
Elle fait des... Oui, est-ce que tu veux nous parler de ce que tu fais sur Twitch pendant 30 secondes?
30 secondes.
Alors sur Twitch, je m'appelle Starmiel. Bonjour.
C'est vraiment une autre personne. C'est Starmiel qui est arrivé là.
C'est bon. comme dans
le monde.
Je fais principalement des sprints le matin de 9h à midi. Les sprints, c'est des moments de productivité où on fait un peu du coworking. On fait des sessions de 30 minutes de travail et avec des pauses de blabla qui durent entre 10 et ça dépend de ce que vous avez envie de raconter.
Mais 10 quoi?
10 secondes, c'est ultra rapide.
Non, mais des fois ça va vite et des fois on papote quoi. C'est ça le but du jeu. Et j'aimerais bien aussi faire des lives prochainement où je parlerai de séries ou de livres. Et j'aimerais aussi faire des jeux. Des jeux...
De voilà. Société.
des jeux vidéo, mais je sais pas trop quoi encore. Donc voilà. Et tout à l'heure, j'ai essayé, mais ça a fait tout bugger. Alors, évitez de recommencer. On va se préparer.
On peut essayer hors live.
Venez. On s'amuse bien. Oui, parce que je suis modérateur sur...
Moi aussi.
Enfin, voilà. Si vous voulez plaisanter avec nous, on y est. Aussi là-bas. On se retrouve donc le mois prochain pour un énorme épisode. Sans sujet du mois.
Je pense qu'il faut qu'on le commence le matin.
Ça va être un sujet tout.
J'avoue qu'enregistrer un podcast le matin, ça me dirait bien, on serait plus motivé, réveillé.
Genre à 7h, tu vois.
C'est non, très tôt.
Peut-être 9h.
Alors, 9h, c'est déjà plus le matin. Hein. C'est le milieu de journée.
Il n'a pas la même notion du temps que nous. C'est une vieille personne. Le daron est parmi nous.
Vraiment.
Merci, Mathilde.
Merci à toi.
Je sais plus comment je m'appelle. Merci Damien.
Merci Emilien.
Merci Slo.
Elle a été plutôt sage pendant tout le podcast.
Elle a été sage, c'est vrai.
Elle vient de me lécher les pieds.
Oui, bah, elle a entendu son nom.
Bah, bonne journée, bonne soirée. Salut, salut.
Bye, ciao, ciao.